Europe 1,
18h-20h,
le grand journal du soir,
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Bienvenue dans votre grand journal du soir sur Europe 1 ce samedi 28 septembre. Dans un instant, nous serons à Rouen où la population réagit aux nouvelles annonces du préfet sur la qualité de l'air. 18h15, Delphine Bateau sera avec nous, elle qui était ministre de l'Environnement en 2013, quand l'usine Lubrizol avait déjà été pointée du doigt. 19h15, c'est le transport aérien dans la tourmente, fin d'activité pour Aigle Azur, pas encore d'offre de reprise pour XL Airways. Et en exclusivité sur Europe 1, je reçois le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari. 19h40, dans l'œil de Frédéric Dabi, on regarde cette nostalgie Chirac, le président le plus sympathique de la 5ème République pour les Français, avec des chansons qui le racontent, vous l'entendrez, comme celle-ci. Ou comment Jacques Chirac, maire de Paris, permettra à Michael Jackson de venir chanter au Parc des Princes. C'est Fabien Lecoeuvre qui nous dit tout ce soir. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Il est tout juste 18h. Voici le journal de Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Et oui, précisément 18h, bienvenue à vous.
Nous sommes à un état habituel de la qualité de l'air à Rouen.
Le préfet de Normandie qui essaie de rassurer les habitants de Rouen deux jours après le spectaculaire incendie d'une usine de type Seveso. 5 plaintes vont être déposées lundi par des riverains et des entreprises.
L'hommage populaire demain aux Invalides pour Jacques Chirac. Déjà 3800 signatures dans le livre d'or de l'Elysée.
C'est une page qui se tourne pour nous. C'était une belle preuve de sympathie que d'aller écrire des mots dans ce livre.
Et puis aucun repreneur ferme pour la compagnie XL Airways. Les syndicats en appellent au gouvernement.
Le gouvernement français doit sauver XL Airways. Il faut sauver la compagnie, sauver les emplois. La problématique sera sur le long terme.
On est ensemble jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1.
Et nous voici deux jours après l'incendie de cette usine à Rouen. Les habitants attendent toujours des réponses précises sur les causes de l'incendie, bien sûr, sur les dangers, surtout, qu'ils risquent pour leur santé, Fabienne.
Des réponses que les autorités ont essayé de leur apporter lors d'une conférence de presse où le préfet vient de faire un point sur la qualité de l'air.
Ces résultats, donc, sur les composés organiques volatiles sont tous inférieurs au seuil de quantification, c'est-à-dire une quantité trop faible pour être mesurée. Ce qui permet de conclure que nous sommes à un état habituel de la qualité de l'air à Rouen, à une exception qui est le site lui-même, sur lequel on note une présence de benzène, qui se comprend très bien, compte tenu, je dirais, de l'activité et des manipulations diverses sur le site. Sur le sujet des suies, nous retrouvons là à la fois les teneurs habituelles pour une suie, avec un sujet particulier sur certains endroits, qui est celui du plomb, étant précisé qu'il peut s'agir d'une source historique, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dû à l'incendie, puisque l'entreprise n'utilise pas ou n'avait pas de dispositif en plomb, alors qu'en zone urbaine, nous savons qu'il peut y avoir des traces de plomb. Des mesures complémentaires, de toute façon, sont évidemment toujours en cours. Nous attendons ces résultats complémentaires en début de semaine. Ils seront aussi communiqués des réceptions. Et pour les suies, les résultats dont nous disposons d'ores et déjà seront mis en ligne également dès ce soir.
Le préfet de Normandie, Pierre-André Durand, avec Élise Dangean, qui détaillait les premiers résultats d'analyse de l'air réalisés après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Des résultats qui, selon lui, démontrent un état habituel de la qualité de l'air à Rouen.
Alors, est-ce que cela se fera rassurer les riverains? Pas sûr, en tout cas, que cela dissuade plusieurs d'entre eux et d'autres entreprises de porter plainte.
Des sociétés qui redoutent un manque à gagner, des habitants qui ont peur pour leur santé. Sébastien Soldaini a joint leur avocat, maître Grégoire Leclerc.
Nous avons 5 plaintes qui seront déposées dès lundi. Des entreprises qui ont perdu du chiffre d'affaires, des particuliers qui ont été victimes directement du nuage de fumée avec des évanouissements, des nausées, parfois des chutes, des gens qui sont en arrêt maladie suite à des intoxications liées à des inhalations de la fumée. Ces plaintes sont portées à la fois sur le droit pénal de l'environnement et sur le droit pénal classique, mise en danger de la vie d'autrui, blessure involontaire, mais également manquement à une obligation particulière de prudence et de sécurité, parce que aujourd'hui, il est inconcevable qu'une usine de ce type, qui contient en son sein un nombre de produits toxiques hallucinant, se trouve quasi en plein centre-ville de Rouen.
Maître Grégoire Leclerc avec Jean-Sébastien Soldani. Maître Grégoire Leclerc qui va déposer plainte au moins pour 5 personnes ou sociétés lundi à Rouen.
Et on revient sur cette actualité à Rouen dans 10 petites minutes avec 2 invités qui réagissent en direct. D'abord la maire de Canteleu, commune voisine de l'usine, qui veut la vérité et qui nous dira ce qu'elle a pensé des propos du préfet ce soir. Et Delphine Bateau, ancienne ministre de l'Environnement, qui discutera avec nous de la localisation de ce type d'usine dans les villes aujourd'hui.
18h04, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Wendy Bouchard.
Avec la politique à la une, Fabienne, et si Marion Maréchal se place hors des partis et ne brigue plus aucun mandat, pas question pour elle d'abandonner le débat politique.
C'est pour cela que ses amis ont organisé à Paris ce qu'ils ont baptisé une convention de la droite qui se veut une boîte à idées. Vous y avez assisté depuis le début de l'après-midi, Aurélie Herbemont, avec des personnalités qui défilent à la tribune et des profils pour le moins divers.
Oui, une convention de la droite qui aurait pu être intitulée « Convention de la droite extrême » à l'écoute du discours d'ouverture d'Éric Zemmour, récemment condamné pour provocation à la haine religieuse, un discours islamophobe et anti-immigration.
Tous nos problèmes sont aggravés par l'immigration. Et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. C'est la double peine. La question qui se pose donc à nous est la suivante. Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres ? Si oui, ils méritent leur colonisation.
La suite de sa phrase pourrait s'apparenter à de l'incitation à la violence. Éric Zemmour, très virulent, à la tribune, devant les défenseurs d'une union des droites, même si peu d'élus ont fait le déplacement, un seul député LR, Xavier Breton, un seul parlementaire RN, Gilbert Collard. Mais l'idée d'aujourd'hui, assure les organisateurs, est juste le débat d'idées, d'où la présence du philosophe Raphaël Antoven pour apporter la contradiction.
Ce que vous êtes en train de construire n'est pas un paquebot du tout. C'est le radeau de la Méduse. Le désir d'ancrer dans un avenir commun des gens issus de toutes les sensibilités de la droite ne recouvre en réalité que des retrouvailles entre militants innombrables qui communient dans la déploration, ce qui est très agréable, mais politiquement stérile.
À Marion Maréchal de dire tout à l'heure ce qu'elle voit comme avenir.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe.
À la une également, l'appel des syndicats du transport aérien, notamment XL Airways, appelle au gouvernement alors qu'il n'y a eu aucune offre de reprise de la compagnie.
Juste des marques d'intérêt, des discussions encore en cours. Maud Descamps vient de joindre Christophe Malogy, il est secrétaire général FO Air France.
Le gouvernement français doit sauver XL Airways à très court terme, là tout de suite. Il faut sauver la compagnie, sauver les emplois. La problématique sera sur le long terme, puisque si on laisse les mêmes problématiques exister, ben, ça sera le même résultat pour cette compagnie. L'État avait aidé à l'époque avec l'Azur. Malgré tout, ben, on a vu que ce n'était pas suffisant. Donc, tant qu'on vivra dans ce marché concurrentiel, ce sera très difficile de continuer dans la situation où sont ces compagnies-là. Mais nous attendons de lui qu'il prenne en compte toutes les études qui ont été faites sur le transport aérien français et tous les poids qui pèsent sur notre économie, en fait. Ces taxes, le fait que les compagnies concurrentes viennent et appliquent une concurrence déloyale, les low cost qui bénéficient de fonds publics pour exister et les compagnies du Golfe qui arrivent avec des subventions étatiques très lourdes et contre lesquelles on a du mal à résister.
Avec l'incertitude pour XL Airways, la fin de l'activité depuis hier soir minuit pour Aigle Azur, 19h15, je vous le rappelle, notre invité secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, en exclusivité sur Europe 1. On fait une petite pause et puis nous parlerons des Français qui pourront se recueillir sur le cercueil de Jacques Chirac demain aux Invalides. Un hommage populaire qui a déjà commencé, Fabienne, à l'Élysée, avec 3800 visiteurs signant le Livre d'Or. Nous serons sur place. À tout de suite.
Il est 18h10, la suite du journal sur Europe 1. Fabienne Lemoyle, Wendy Bouchard.
Dès demain, les Français pourront donc venir se recueillir sous le dôme des Invalides sur le cercueil de Jacques Chirac, hommage populaire voulu par la famille, qui assistera lundi matin à une cérémonie privée dans la cour d'honneur avant que le cercueil de l'ancien chef d'État ne soit conduit en l'église Saint-Sulpice.
Et là encore, Wendy, les Français pourront tout au long du trajet rendre un dernier hommage à Jacques Chirac. Des Français qui, depuis jeudi soir, défilent à l'Élysée pour signer le Livre d'Or, déjà 3800 signatures et toujours ce soir une file d'attente devant le palais présidentiel où vous vous trouvez, Jeanne Bergaoui.
Effectivement, et il y a tellement de monde que désormais il n'est plus possible de faire la queue. Le vestibule d'honneur ferme ce soir. À 20h, il faut encore que tous ceux qui attendent puissent signer. Donc l'Élysée arrête de prendre de nouvelles personnes. puisqu'il y a encore au moins 2 heures d'attente avant de rejoindre les registres. Beaucoup de monde donc. Une fois sortis, certains immortalisent ce moment comme Benoît et Nicolas qui se prennent en selfie devant les grilles du palais. Ils sont parisiens, ils ont 18 ans et comme ils disent, ils sont nés sous Chirac.
J'ai écrit une citation de Jacques Chirac qui dit que pour lui, servir la France était l'engagement de toute sa vie. Et j'ai mis que j'espérais que servir la France serait l'engagement de la mienne aussi. Voilà.
On l'a connu jusqu'à nos 7 ans. Et donc voilà, c'est une page qui se tourne pour nous. C'était une belle preuve de sympathie que d'aller écrire des mots dans ce livre.
Qu'est-ce que vous avez écrit, vous ?
J'ai écrit « Merci pour tout, monsieur le Président. C'est une page politique qui se tourne pour la France. » Et voilà, c'est tout.
Alors Jacques Chirac, l'homme politique, mais aussi le bon vivant, l'humain, ces mots reviennent sans cesse, notamment pour Sandrine et Philippe, un couple d'Alsaciens.
C'était pour nous un bon président, donc certainement le plus humain et le plus proche de son peuple. Donc voilà, c'est important de le faire. Et certainement le premier président pour qui j'ai voté.
Il y a un souvenir particulier, peut-être une anecdote que vous gardez de Jacques Chirac ?
Moi, c'était ses relations avec Bernadette, en fait. C'était ce côté un peu sympathique, marrant, et puis justement qui fait qu'il se rapproche de nous tous, quoi, son couple.
Je crois qu'aujourd'hui, c'est le dernier président qui était un peu notre papa. Voilà. Je pense qu'on perd un peu un père, quelque part.
Des Français qui vont pouvoir continuer à rendre hommage à Jacques Chirac dans ses livres d'or. Cela ferme ce soir ici à l'Élysée, mais ils seront disponibles dès demain matin, 8h, aux Invalides.
Jeanne Bergaoué à l'Élysée pour Europe 1. Et donc, je vous le rappelle, hommage populaire demain aux Invalides que nous vous ferons vivre lors d'une édition spéciale sur Europe 1 entre 12h30 et 14h, avec notamment l'éditorialiste et grande voix d'Europe 1, Michel Cotta, et l'historien Jean Garry.
Et on aura le plaisir de vous retrouver pour cette émission spéciale, Fabienne Lemoyle. Merci. À demain. Voici un petit point météo avec Valérie Darmon et un temps plus humide demain qu'aujourd'hui, sur l'ouest en particulier. Valérie.
Absolument, une perturbation s'enfonce sur le pays par le nord-ouest et ce dimanche matin, elle va concerner toutes les régions allant de la Bretagne et des Pays de la Loire à l'Alsace. Ce temps pluvieux va se décaler progressivement au fil de la journée vers la Nouvelle-Aquitaine, le nord du Massif central, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne et la Lorraine dans l'après-midi. À l'arrière, les éclaircies reviendront sur le nord-ouest, mais le temps restera agité au nord de la Seine avec de fréquentes averses et toujours du vent, puisque ce vent de sud-ouest va souffler à 70 km/h en rafale à l'intérieur des terres et jusqu'à 90 près des côtes. Entre le sud de l'Aquitaine et la Bourgogne, le ciel sera plus lumineux le matin, puis de plus en plus voilé au fil de la journée. Enfin, des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée, ce sera toujours bien ensoleillé. Les températures du matin, 8 à 11 degrés d'est en ouest et jusqu'à 20 près de la Méditerranée. L'après-midi, 17 à 21 du nord à l'ouest de la France, 20-26 ailleurs et jusqu'à 29 dans le sud.
Merci Valérie Darmon, à tout à l'heure, 18h30. Et maintenant, Wanny Bouchard à 18h14 sur Europe 1. Nous revenons sur cette situation très préoccupante à Rouen, 2 jours après l'incendie dans l'usine chimique Lubrizol.
Oui, le préfet a convoqué la presse il y a moins d'une heure. Bonsoir Mélanie Boulanger.
Bonsoir.
Vous êtes maire de Canteleu, commune directement concernée par les émanations et les retombées provenant de l'usine. Oui. Il a eu ses propos il y a un instant, le préfet. Nous sommes à un état habituel de la qualité de l'air. Pas de situation alarmante pour les suies que vous avez retrouvées sur les cultures, sur le matériel, les voitures, etc. Est-ce que vous êtes rassurée ce soir, madame le maire ?
Je suis partagée parce qu'on ne peut pas faire mentir des chiffres. Mais ces chiffres, on veut les connaître bien précisément. Ils vont être publiés, on va les regarder. Après, moi, je ne suis pas chimiste, donc je ne sais pas quelle est la réaction de ces choses-là. À partir du moment où elles touchent l'air ou à partir du moment où elles ont été brûlées, en contact avec une température élevée. Et puis, moi, ce que je disais hier au préfet qui nous a reçus, c'est que la difficulté, c'est qu'on ne peut pas nous dire que tout va bien, mais qu'il y a de multiples précautions à prendre. Oui. Quand il y a de multiples précautions à prendre, c'est que sans doute, tout ne va pas bien et qu'il y a des raisons d'être vigilant, sinon inquiet.
Mmh. Avec un suivi évidemment post-accidentel, 8000 mètres carrés de toiture en amiante qui ont brûlé, il a identifié le problème, le sujet, le préfet encore ce soir, et avec un suivi pour les pompiers, les habitants directement concernés. J'accueille également dans cette réflexion avec vous, madame la maire, Delphine Bateau, députée Génération Écologie des Deux-Sèvres. Bonsoir, madame Bateau.
Bonsoir.
Il se trouve que vous connaissez bien, j'allais dire, hélas, cette usine Lubrizol Seveso, car il y a 6 ans, en 2013, vous avez géré comme ministre de l'Environnement un autre accident. Des émanations de gaz provenant de l'usine est ressentie jusqu'en Angleterre. Cette usine n'a définitivement plus sa place à Rouen pour vous, ce soir?
C'est un site Seveso, en tout cas, qui pose des problèmes de façon récurrente. Alors là, on est dans une crise et un accident industriel extrêmement grave. Je pense que c'est le plus grave en France depuis la catastrophe d'AZF, qui est donc dans des proportions pas du tout comparables à celui de 2013. Mais effectivement, il y a eu des problèmes aussi en 2015. Mmh. En 2017, il y a eu 17 manquements qui avaient été relevés par l'administration et l'entreprise avait fait l'objet d'une mise en demeure. Donc il y a clairement un problème avec cette usine Lubrizol.
Problème manifestement circonscrit étant donné que l'état de l'air est d'une qualité habituelle, a dit le préfet ce soir. Est-ce qu'il faut croire quand même en la parole de l'autorité publique ?
Il y a des inquiétudes. Et cette communication excessivement rassurante, en fait, elle n'est pas rassurante. Ce que veut tout le monde, je crois, aussi bien la population sur place, je crois, que tous les Français, c'est la vérité, en fait. Mmh. Et donc, on n'a toujours pas, à l'heure où on parle, la liste des produits qui ont brûlé. Et c'est pas suffisant de dire c'est des additifs et des lubrifiants. Quelle est la composition chimique des produits qui ont brûlé? Quelle est la composition des suies? Quelle est la quantité de suie qui a été émise dans ce panache de fumée? En fait, à l'heure où on parle, on n'a pas les résultats détaillés de ces analyses, ni des prélèvements qui sont faits dans les sols, sur les végétaux, dans l'eau. Et c'est ça qui inquiète, en fait. C'est que il y a le sentiment, si vous voulez, que les pouvoirs publics se
maîtrisent quand
de
même.
Dire,
oui.
Voilà, oui, mais se dépêchent. Ils ont maîtrisé, disons les choses, ils ont maîtrisé l'incendie, ils ont évité qu'il y ait un suraccident, ils ont fait le périmètre de confinement de la population, fermé les écoles, dit aux gens de ne pas se déplacer. Maintenant, on dit aux gens de nettoyer l'essuie en mettant des gants ménagers. C'est normal que tout le monde veuille savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces produits et quels sont les risques à court terme, à moyen terme et à long terme.
Delphine Bateau, vous venez de vous exprimer. Mélanie Boulanger, vous êtes encore avec nous, maire de Canteleu. Lundi, les écoles vont rouvrir, les enfants vont retourner donc sur les bancs de l'école, dans les cours d'école qui ont été nettoyés. Les agriculteurs, eux, n'ont pas cessé de travailler. Que font-ils de leur culture? Vous n'êtes pas en mesure de rassurer peut-être tout le monde précisément?
Comment rassurer? Moi, ce que je sais, c'est que les écoles sont propres. J'y retournerai demain, dimanche, avec les services pour vérifier par moi-même. Ça a été vérifié vendredi, il y a eu une vigilance aujourd'hui, mais j'y retourne demain pour être certaine et pour pouvoir garantir qu'on peut accueillir les enfants lundi matin.
Oui.
C'est effectivement ce que Delphine Bateau dit, il y a une communication qui est étrange. Elle est d'autant plus étrange qu'avec mes collègues maires, nous regrettons d'avoir été un peu les oubliés dans l'affaire. Je ne demande pas, je le répète, je vous l'ai déjà dit, je ne demande pas la primeur de l'information. Je demande qu'on nous donne les moyens de rassurer la population, ou en tout cas de l'assurer que nous prenons les justes mesures dans un cas de catastrophe comme celle-ci. Quoi.
Là, le préfet avait plutôt l'air rassurant, considérant par exemple que vous pouviez
Il était déjà jeudi. Donc,
mais je prends un exemple concret. Les cultures dans vos jardins, dans votre potager, en gros, vous ramassez les légumes, vous les lavez, vous les épluchez, il n'y a pas de problème pour la santé. Aujourd'hui, par exemple, cette parole, vous la mettez aussi en doute, et vos habitants également?
Non. Enfin, moi, je n'en mets pas en doute. Le problème, c'est qu'on vous dit vos légumes, vous les épluchez, vous les lavez, vous les épluchez. Par contre, les agriculteurs, le maïs qu'ils sont en train de ramasser, il faut le stocker et puis sans doute, il sera détruit.
Oui.
Comprenez la différence de discours, elle est étonnante et elle est inquiétante. J'aimerais mieux qu'on nous dise ne mangez rien. Peut-être que c'est trop de précaution. Moi, je vous le dis, hier, dans mes écoles, j'aurais pu ouvrir. Mais j'ai appliqué le principe de précaution parce que quand on ne sait pas, eh ben, il vaut mieux mettre ceinture
bien
et bretelles.
Bien sûr, on vous comprend. Vous êtes responsable de votre population. Mélanie Boulanger, Delphine Bateau, pour terminer, est-ce qu'on pêche aussi encore en France dans le dispositif d'accompagnement pour ce type d'accident qualifié d'industriel, pour mieux accompagner, pour mieux rassurer les populations et soutenir les élus qui sont en première ligne?
Là où il y a un gros problème, c'est qu'on est sur un site où il y a déjà eu un pépin sérieux en 2013. Et que ce pépin sérieux en 2013, il avait fait l'objet de ce qu'on appelle un retour d'expérience et justement d'un certain nombre de changements dans la logique d'organisation des pouvoirs publics dans des situations comparables. Par exemple, c'est très surprenant d'entendre des élus locaux dire qu'ils n'ont pas toutes les informations,
oui,
alors que justement, une des conclusions qui avait été tirée en 2013, c'est qu'il fallait en permanence informer les élus locaux, qu'il fallait en permanence rendre public de façon transparente, par exemple, les analyses. Parce qu'en fait, je veux dire, là où il y a un problème, le préfet dit qu'il n'y a pas de toxicité aiguë. Mais j'allais dire que ce n'est pas la seule question. La question, c'est aussi la toxicité à plus long terme sur la santé, sur la biodiversité. Ce n'est pas juste la toxicité aiguë ce que les gens veulent savoir.
En tout cas, on a bien compris voilà, vos précautions et les informations d'Europe 1 qui correspondent aussi à cette inquiétude du soir. 5 particuliers et entreprises qui vont déposer plainte lundi contre X après l'incendie de cette usine à Rouen. Merci et bon courage Mélanie Boulanger, maire de Canteleu. Et merci Delphine Bateau pour ces informations également que vous allez livrer sur l'antenne d'Europe 1 en qualité de députée des Deux-Sèvres et ancienne ministre de l'Environnement. Merci.
18h22 à suivre Wendy Bouchard.
À suivre toute l'actu du foot avec Jean-François Pérez dans un instant et Lionel Rousseau. On va parler foot bien sûr, de Lyon évidemment, de volley aussi un peu. À tout de suite.
C'est le journal des sports. 18h24, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Toute l'actualité des sports, c'est avec vous, Jean-François Pérez, bonsoir.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Et à la une ce soir.
100% direct ou presque, oui. Les volleyeurs français à la recherche d'une médaille de bronze à l'Euro, les athlètes français à la recherche d'une première médaille aux Mondiaux, le PSG en déplacement à Bordeaux, enfin Lyon qui s'enfonce au classement et dans la crise.
On démarre avec du foot, 8e journée de Ligue 1 et ce PSG qui doit une revanche à ses supporters.
Et oui, moins de 3 jours après sa défaite surprise face à Reims au Parc des Princes, les Parisiens sont à Bordeaux. Bonsoir Julien Froment.
Bonsoir.
La première période vient de s'achever, les Bordelais donnent-ils du fil à retordre aux stars parisiennes ?
Pas vraiment, même si le score est de 0-0 à la pause. Paris qui domine largement les débats cet après-midi au Matmut Atlantique, mais Paris qui joue une fois de plus sans attaquant de pointe, sans attaquant de métier, et ça se voit sur le terrain puisque Paris n'arrive toujours pas à marquer, avec notamment deux belles actions, deux belles occasions signées Di Maria et Neymar aux 28e et 29e minutes de jeu, mais Benoît Costil à chaque fois était à la parade. Paris qui a un joker sur le banc, un joker nommé Kylian Mbappé, il est entré là pour s'échauffer et devrait avoir du temps de jeu d'ici la fin de cette seconde période. 0-0, c'est la mi-temps à Bordeaux.
Merci Julien, on vous retrouve à 19h.
Et on s'intéresse maintenant à Lyon, Lyon qui ne gagne plus.
7e match sans victoire pour l'OL, battu à domicile par Nantes 1-0 sous les sifflets de supporters de plus en plus excédés. Un but de Moutou Sami pour les Nantais. Nantais épatant, hein, les joueurs de Christian Gourcuff, leader provisoire. Les Lyonnais qui ne pourront pas continuer comme ça bien longtemps. Écoutez les mots très forts de Juninho, le directeur sportif, qui évoque la colère de son président Jean-Michel Aulas et une réunion de crise ce soir.
On va discuter ce soir. Il n'est pas content non plus, bien sûr. C'est lui qui est là depuis 33 ans. Et on verra quelle décision il va prendre. C'est moi qui ai choisi le coach, donc je prends mes responsabilités aussi. Le message ne passe pas à 100%. Je ne dis pas que c'est le moment aussi d'y changer à 100%. On ne sait pas. Il faut qu'on se pose des questions, nous tous. Et on verra.
Oui, réunion de crise ce soir. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy.
Il sera évidemment question de Lyon et des choix de Jean-Michel Aulas de plus en plus contestés.
Hein. Dans nos grands débats, effectivement, au cœur de notre soirée foot, on va se demander si tout simplement Jean-Michel Aulas a commis la pire erreur de sa carrière de président en faisant revenir Juninho, certes joueur emblématique, en lui donnant les pleins pouvoirs sportifs. Mm-hmm. Ce dernier, Juninho, a fait venir Silvinho, jeune entraîneur brésilien qui n'a jamais été numéro un, donc qui manque considérablement d'expérience, qui ne parle toujours pas français. C'est très compliqué pour faire passer des messages. Et aujourd'hui, l'équipe se retrouve 11e au classement avec le budget de l'Olympique Lyonnais, les ambitions de l'Olympique Lyonnais et surtout l'envie et l'expérience de Jean-Michel Aulas. On se pose beaucoup de questions. On en débattra ce soir.
À partir de 20h dans Europe 1 Sport.
Oui, les derniers matchs de cette 8e journée hein, qui auront lieu demain après le multiplex de ce soir. 15h demain, Strasbourg-Montpellier. 17h Nîmes-Saint-Etienne. Ce sera sans doute le dernier match de Ghislain Printemps sur le banc de Saint-Etienne, remplacé sans doute par Claude Puel. Saint-Etienne 19e. Et puis à 21h, Marseille recevra Rennes.
Les mondiaux d'athlétisme à la une également. On part à Doha. Première chance de médaille française ce soir.
Alexandra Tavernier est en finale féminine du lancer du marteau. Johan Diniz sera à 23h française au départ du 50 km marche. Mais ce n'est pas tout. Bonsoir Corinne Boulou.
Bonsoir Jean-François. Bonsoir,
il y a Andy. Deux autres têtes d'affiche dans ce stade désespérément vide de Doha. Renaud Lavillenie et Jimmy Vico sur 100 mètres.
Oui, Jimmy Vico qui a été éliminé dès les demi-finales. C'est la mauvaise surprise de la soirée, mais il est arrivé avec un bilan mondial trop lointain pour effectivement pouvoir concurrencer et être présent sur la ligne droite face à un Christian Coleman qui a dominé ses demi-finales en 9,88, Vico en 10,16. C'était vraiment insuffisant pour aller chercher une quatrième finale mondiale. Et Renaud Lavillenie qui est en difficulté en ce moment, il lui reste un saut à 5,70 m pour tenter d'aller chercher cette finale, mais pour le moment il ne figure pas dans les qualifiés, Renaud Lavillenie.
Quant à Pierre-Ambroise Boss, il s'est qualifié pour les demi du 800 mètres. À tout à l'heure, Corinne, merci.
Le volley à la une également. La France espère le bronze pour terminer son championnat d'Europe.
Direction Bercy, l'accord Hôtel Arena. Bonsoir Cyril de la Morinerie.
Bonsoir François, bonsoir.
Les joueurs de Laurent Tilly affrontent les Polonais depuis quelques minutes. Ont-ils digéré l'immense déception d'hier soir, cette défaite en demi-finale et en 5-7?
Eh bien écoutez, les Français et les Polonais sont au coude à coude. La Pologne mène d'un point, 24 à 23, à un seul point de remporter le premier set de cette partie. Ça avait pourtant très bien commencé par les Français qui ont compté jusqu'à 5 points d'avance avant que les Polonais, soutenus par un immense public, hein, ils sont très nombreux ce soir les supporters polonais, a encouragé donc la Pologne qui est double championne du monde. Ça va être compliqué pour l'équipe de France, mais ils paraissent plus détendus qu'hier soir où ils étaient très crispés notamment. Lors du tie break.
On y croit pour la médaille de bronze. A tout à l'heure, Cyril, un dernier mot, l'immense joie des Japonais en rugby, vainqueur de l'Irlande à la Coupe du Monde, 19 à 12, le pays organisateur qui signe l'un des plus grands exploits de toute l'histoire de la compétition.
On parlera boxe tout à l'heure à 19h avec vous, Jean-François Pérez. Que de direct ce soir, ça fait du bien hein, en sport.
À suivre sur Europe 1, l'essentiel de l'info, le ciel est pour faire l'actu avec une question, Wendy.
Oui, est-ce qu'elle fait du bien, Greta Thunberg, au débat politique? En tout cas, elle stigmatise, elle pose des questions. On en parle avec Julien Bayou et Pascal Canfin. A tout de suite.
18h31, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Et les grands titres de l'actualité avec vous, bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Pas de pollution de l'air à Rouen après l'incendie de Lubrizol. La qualité de l'air est dans son état habituel, annonce du préfet ce soir. Alors qu'en raison d'une odeur persistante dans la ville, plusieurs habitants sont pris de vomissements. L'enquête a été élargie au chef de mise en danger de la vie d'autrui. Une longue file d'attente à l'Élysée pour signer les registres de condoléances à la suite du décès de Jacques Chirac. Demain, un hommage populaire sera rendu aux Invalides, à l'ancien président décédé jeudi à l'âge de 86 ans, dans une cérémonie lundi en présence d'une trentaine de chefs d'État, parmi lesquels Vladimir Poutine. Il va falloir encore attendre avant que le trou de la Sécu ne soit comblé. Pas de retour à l'équilibre avant 2023. C'est ce qu'annoncera le gouvernement lundi lors de la présentation du projet de budget 2020. Cette année, le déficit de la sécurité sociale devrait atteindre 5,4 milliards d'euros. Beaucoup d'incertitudes sur l'avenir d'XL Airways. Aucune offre ferme de reprise n'a été formulée, seulement à des marques d'intérêt. Et puis à l'étranger, le début de l'élection présidentielle aujourd'hui en Afghanistan, un scrutin sous la menace de la fraude, de l'abstention et des attentats. Les talibans ont multiplié les avertissements pour décourager les électeurs de se rendre aux urnes.
Merci Sophie, voici le ciel. Valérie Darmon, dégradation annoncée demain au nord de la France.
Et oui, et ce sera encore plus nuageux qu'aujourd'hui au nord, demain dimanche, parce qu'on a une dépression qui se creuse le long des côtes de la Manche et les pluies qui vont gagner du terrain des Pays de la Loire aux Ardennes au fil de la journée. Au sud, inchangé, le ciel sera un tout petit peu plus nuageux, mais l'impression toujours estivale parce qu'il fera très chaud, avec 31 annoncés à Cahors ou encore à Auch, 30 à Toulouse et Montauban, 29 à Lyon, Avignon, Tarbes et Mont-de-Marsan, 27 à Chambéry et Toulon, 26 degrés à Bourg-en-Bresse et Brive-la-Gaillarde, 25 à Bordeaux, 24 à Angoulême, 22 à Tours et 20 degrés à Paris.
Merci Valérie Darmon. On refait l'actu, Wendy Bouchard. Comme chaque samedi sur Europe 1, on refait l'actu ce soir autour d'un thème qui a cristallisé les débats.
Et à l'ONU, en l'occurrence, le sommet sur l'urgence climatique cette semaine, avec l'adresse comme un cri de Greta Thunberg aux dirigeants du monde. On refait l'actu en effet avec le président de la commission environnement du Parlement européen, Pascal Canfin. Bonsoir.
Bonsoir.
Associé à Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Julien Bayou.
Bonsoir, bonsoir.
Pourquoi dérange-t-elle autant cette jeune fille de 16 ans et en quoi nous ferait-elle du bien au contraire, Pascal Canfin?
Personnellement, elle ne me dérange pas. Je pense qu'au contraire, son message est très important. En revanche, une fois que l'alerte a été faite, et je pense que l'alerte elle est maintenant partagée par tout le monde, sauf quelques exceptions malheureuses et dramatiques du type Donald Trump ou Bolsonaro, la question c'est comment on avance. Et c'est là où on ne peut pas se contenter juste de cris d'alarme, tout aussi indispensables soient-ils, mais il faut passer à l'acte. et passer à l'acte, ça implique justement de passer des compromis. Moi, j'étais en Pologne cette semaine, un pays qui dépend à 90% pour son électricité du charbon. Donc vous imaginez bien que ça implique de passer des compromis avec les syndicats, avec les élus locaux, avec les travailleurs qui vont perdre leur emploi si le charbon ferme et qu'on développe, par exemple, les renouvelables. Ben ça, ce n'est pas de la morale, c'est de la politique, ça prend du temps, c'est compliqué. Mmh. Et c'est pour ça que malheureusement, et je me bats tous les jours pour qu'on aille plus vite et plus loin, au moment où on parle, on est malheureusement en train de perdre cette énorme bataille de civilisation, de lutte contre le dérèglement climatique.
Voilà pourquoi Julien Bayou, Emmanuel Macron aurait préféré que les jeunes Français manifestent non pas dans les rues de France, mais en Pologne, aux marches du bâtiment présidentiel. Je ne sais pas comment vous avez reçu justement ces intentions.
Ouais, je crois que c'était au mieux maladroit, au pire arrogant, parce que tout ce dont on doit convenir, c'est qu'il faut encourager cette jeunesse qui, en fait, s'occupe de ce qui la concerne. Mmh. Je crois que Greta Thunberg, elle parle de 2050. Pour vous et moi, ça paraît loin. Pour elle, c'est 47 ans. C'est la moitié de sa vie. Et donc, c'est ce dérèglement climatique, cette extinction de masse, ça la concerne très directement. En France, ça n'avance pas. Et c'est bien pour ça que Nicolas Hulot avait démissionné il y a un peu plus d'un an. Et donc, on a un problème. C'est que pour être crédible, il faut donner des gages. Il faut agir dans son pays. Et ce n'est pas ce que fait Emmanuel Macron, ni sur les pesticides, ni sur les renouvelables, ni sur la rénovation thermique. Sur tous ces sujets où on peut obtenir des gains faciles, créer de l'emploi et baisser les factures des ménages, eh bien on n'avance pas comme il faudrait.
L'avantage, messieurs, de Greta Thunberg, c'est justement qu'elle met le doigt là où ça fait mal. Vous connaissez bien ces sujets, Pascal Canfin, vous avez présidé longtemps WWF France, mais lorsqu'elle intente cette plainte pour inaction climatique avec 15 autres enfants contre plusieurs pays, dont la France, là encore, ça vous énerve? Vous trouvez ça plutôt injustifié qu'elle n'attaque pas davantage ou la Chine ou les États-Unis?
Donc, je pense que la France est déjà attaquée par les ONG françaises. Mmh. Donc, c'est déjà une action en justice. Je vois honnêtement pas franchement l'intérêt d'avoir une autre. Mais je reviens sur ce que disait Julien Bayou. C'est caricatural de dire que la France ne ferait rien, que le gouvernement actuel ne ferait rien. Et je pense qu'on n'a pas besoin de caricature. Les ONG à Bruxelles classent la France comme le troisième pays qui avance le plus sur 28.
Julien Bayou.
La France a pris des engagements devant l'humanité. Mmh. Aujourd'hui, elle ne les tient pas. La Commission européenne l'exhorte, d'ailleurs, c'était en juin, à accélérer sa transition. Le Haut Conseil de l'écologie qui avait été mis en place, on ne sait pas très bien pourquoi, finalement, a servi à quelque chose. C'est à pointer du doigt le fait qu'en France, ça n'allait pas assez vite.
Si il a servi à quelque chose, c'est parce qu'il a été mis en place à cette fin.
Je dis juste, il y a un point qui est problématique et que Nicolas Hulot avait pointé du doigt et que Greta Thunberg pointe du doigt. À un moment, elle met en cause toujours plus d'activités, toujours plus de profits et elle pointe du doigt comme incompatible avec la préservation du bien commun, du climat, de nos ressources. Je pense que ça, c'est un point majeur que Emmanuel Macron n'a pas intégré. Et quand on met énormément d'argent sur la table, par exemple avec le CICE, 20 milliards d'euros, c'est en gros l'essentiel de nos marges de manœuvre en matière économique, pour soutenir toutes les entreprises, quelles qu'elles soient et quelque activité que ce soit, eh bien là on se trompe parce que cet argent, c'est celui-là qui manque pour investir dans les renouvelables, pour investir dans la rénovation thermique et offrir aux Françaises et aux Français un 13e mois.
Julien Bayou, il a intégré le président Emmanuel Macron une prise de conscience massive et qui vient aussi des jeunes. La France retirant son soutien au traité de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne. Action tangible qu'on peut mettre sur la table, Pascal Canfin.
Oui, bien sûr. Quand aujourd'hui le gouvernement est le seul en Europe à dire aussi clairement on ne veut pas d'accord de libre-échange avec des pays qui sortent de l'accord de Paris et avec des pays qui ne le respectent pas. Mais je pense qu'il faut qu'on tous, quelle que soit la couleur politique qui est la nôtre en France, qu'on soutienne cette démarche et non pas qu'on la critique.
Vous avez l'action gouvernementale, vous avez l'action citoyenne de l'autre. Lorsqu'Emmanuel Macron dit ces jeunes-là qui manifestent dans les rues, ferait mieux aussi d'aller en gros ramasser les déchets sur les plages ou ailleurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer un service citoyen comme des travaux d'intérêt généraux, mais qui soit réglé, réglementé et puis enfin opérationnel et qu'on se passe de mots et qu'on soit vraiment dans l'action?
Je pense qu'il y a les deux. La jeunesse doit manifester et c'est ce que je dis au président de la République. La jeunesse, elle est en train de construire son identité politique. de génération sur la bataille climatique.
C'est pour ça qu'elle fait du bien pour vous, Greta Thunberg, toute critiquée qu'elle soit, dans le monde entier d'ailleurs, Julien Bayou.
Mais les personnes qui la critiquent sont celles qui défendent un monde qui n'existe plus, en vrai. C'est complètement indécent de s'en prendre à une mineure, à une autiste qui le revendique, et de se moquer d'elle au motif de ses traits physiques ou autres. Enfin, je crois que les vieux blancs qui se moquent d'elle...
Oui, il y a aussi des jeunes politiques de 30 ans qui la qualifient d'hystérique ou de psychopathe, hein, voilà, pour
et
ne pas les citer.
Et qui sont des vieux dans leur tête. Je pense que là, il y a un point de bascule, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir de courage politique pour faire de l'écologie. C'est-à-dire que vous avez une prise de conscience qui est telle que sur la condition animale, sur les pesticides, sur les renouvelables, la population, elle attend du changement. Et les pouvoirs publics traînent. Et donc, pourquoi ça ne bouge pas? Eh bien, tout simplement parce que ces gouvernements n'osent pas s'en prendre au lobby agrochimique. Si je parle des pesticides, qu'est-ce que ça veut dire de proposer 5 à 10 mètres de limite pour l'épandage par rapport aux habitations? Le ministre de l'Agriculture propose 5 à 10 mètres et propose une consultation.
Pascal Canfin.
La France est le seul pays en Europe où la question se pose. Et évidemment, 5 à 10 mètres, ça n'est pas suffisant. Et donc, il est extrêmement probable que ce qui sortira de la concertation ira plus loin. Néanmoins, reconnaissons que, par exemple, et c'était il y a 2 jours au Parlement européen, la France est le seul pays à avoir refusé la position de la Commission sur l'application d'une règle des pesticides aux abeilles, qui fait qu'en gros, on a des critères tellement souples qu'on finit par accepter tous les pesticides et de tuer les abeilles. Le seul pays en Europe, le seul, et c'est factuel, tu pourras vérifier, qui s'est opposé à cette décision, c'est la France. Donc parfois, la France est en retard, et il faut le dire et le condamner, le dénoncer, mais vous seriez d'autant plus crédible dans cette critique que vous acceptez aussi de reconnaître quand ça avance.
C'est trop facile de dire que je suis dans la caricature. Les faits sont là. La France voit ses émissions de gaz à effet de serre progresser. À un moment, il ne s'agit pas d'opposer les écologies, il s'agit d'en faire. Il s'agit d'en faire. La jeunesse se mobilise, c'est une chance merveilleuse. Et d'avoir un gouvernement, par la voix de son président, qui dit « bon, en fait, il faudra les manifester ailleurs », je le redis, je ne pense pas que ça soit forcément arrogant, je pense que c'était maladroit. Mais... c'est tout un modèle qu'il faut changer. Pour se mettre d'accord, ça commence par constater et accepter ces faits-là. Sinon, on est dans les grands discours.
Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et Pascal Canfin, président de la Commission Environnement du Parlement européen. Merci, messieurs.
Et dans un instant, Wendy, l'interview découverte dans les coulisses de l'hôpital, derrière les blouses blanches.
Stéphanie Fugain a rencontré ses professionnels de santé, leur vie, leur mission, leur quotidien, qu'elle raconte dans un livre qui leur est dédié. Elle est avec nous, juste après la pause sur Europe 1.
La suite de ce grand journal du soir sur Europe 1, toujours avec vous, Wendy Bouchard. Il est maintenant 18h43. C'est l'heure de l'interview découverte qui nous transporte ce soir au cœur de l'hôpital.
Absolument, avec ce livre à la une qui honore ceux qui nous soignent, ceux qui nous sauvent, ceux qui croient en la vie et qui ne cessent de côtoyer la mort. Elle les a rencontrés lorsque sa fille Laurette se battait contre la mort, précisément, d'une leucémie. Elle les a suivis et interrogés. Bonsoir Stéphanie Fugain.
Bonsoir Wendy.
Cet ouvrage s'intitule « Derrière la blouse blanche ». C'est une série de témoignages que vous avez recueillis sous forme d'interview. C'était une façon d'honorer tous ces médecins, ces professeurs, ces infirmiers, ces aidants médicaux en pleine crise aussi des urgences où l'on sait que leur travail est si difficile.
C'est surtout les faire découvrir différemment de ce que l'on peut percevoir justement quand on se retrouve dans un couloir d'hôpital ou dans une consultation. En fait, quand on arrive dans ces services... tout est froid, tout oui. est glacial, même par la nouvelle.
Ça heurte chacun d'entre
ça
nous.
Heurte,
hein.
Bien sûr. Et on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, on ne sait pas au début. Et moi, c'est ce que j'ai constaté, que ce lieu va devenir notre maison. Et les personnes qui sont là, qui travaillent, vont devenir notre famille. Et on a vraiment intérêt à se laisser faire, parce qu'il y a un vrai jeu entre les soignants et le patient. S'il n'y a pas de connivence, alors je parle de toutes ces maladies qui sont très longues et très difficiles, hein. S'il n'y a pas d'attachement, s'il n'y a pas ces connivences, s'il n'y a pas même ces petits coups d'amour qui peuvent exister entre un médecin et un patient, eh bien, ça ne pourra pas marcher aussi bien que ce qu'on imagine. Ils ont besoin d'avoir une proximité et le patient a besoin d'avoir confiance et les accompagnants
bien sûr,
ont besoin d'avoir confiance.
Mais vous avez été blessé, comme tant d'autres familles, par les verdicts très brutaux, par cette fermeté, par ces mots parfois mal choisis. On vous explique d'ailleurs qu'il n'y a
technique.
Pas de formation psychologique non. justement pour encadrer le malade dans l'autre
voilà.
sens.
Et moi, j'ai été ravie parce que je les ai vraiment... je suis allée vraiment au fond de leur cœur pour essayer de comprendre. Et puis maintenant, je vis depuis 17 ans dans ce combat.
Oui.
Et j'ai appris à les comprendre, à décoder tous ces signes de questionnement, de silence, ces regards qui sont tellement longs. Au début, quand on est parent, on se dit « mais il m'énerve, il ne répond pas à ma question. Est-ce que ça va mieux ?» Ils ne répondent pas, ils vous regardent. Les regards, si vous ne les comprenez pas au départ, ils veulent dire quoi? Ils veulent dire « c'est bien, c'est pas bien, je crains, j'ai pas... » On ne les connaît pas. Donc je crois que voilà, ce livre doit apporter ça, c'est-à-dire une meilleure connaissance des personnes que vous avez en face. Et quand souvent on se dit « ah non, je ne veux pas de lui, je ne veux pas d'elle dans la chambre, je ne l'aime pas, ma fille ne l'aime pas, mon fils ne l'aime pas, mon mari ne l'aime pas », allez voir un petit peu plus loin peut-être. Mmh, mmh. Peut-être que cette humanité que vous n'avez pas décelée tout de suite, vous allez la trouver, vous allez trouver un cœur et c'est à ce cœur-là que vous allez
bien
parler.
Sûr. Et ils sont récipiendaires d'un certain nombre d'états d'âme, évidemment. Laurette, comme tant d'autres malades, leur avait confié des choses directement qu'elle n'a jamais osé vous dire. Et ça, ouais. c'est ouais. logique, c'est normal. Et vous comprenez tout ce qu'ils ont aussi apporté et tout ce qu'ils ont derrière cette blouse
blanche. Voilà, et moi, je le comprends maintenant. Et comme je suis en rapport direct avec beaucoup de familles et beaucoup d'enfants et beaucoup de patients, eh bien, quand les familles me disent ça, je peux leur dire que cette connivence, il faut la laisser parce que c'est aussi un moteur entre le soignant et le patient, et que peut-être que nous, quand on a l'impression d'être extérieur, il faut rester extérieur. C'est leur histoire à eux. Mmh. Je dirais presque que c'est une histoire d'amour.
Oui.
Et c'est une jolie histoire parce que ce qu'on ne pourra pas dire à une maman qui ne va peut-être pas l'intégrer, moi j'avais refusé définitivement que ma fille allait partir. C'était pas possible. On me le disait à demi-mot, on me le disait à plein mot, mais c'était, j'entendais rien, j'étais un mur. Ma fille ne pouvait pas partir. Donc quand je me retrouve en face de parents qui pensent comme ça, j'essaie, moi, de les amener maintenant sur un chemin, oui. Le chemin de la maman qui connaît.
Voilà, vous êtes allée à la rencontre alors, de ces infirmiers, de ces oncologues, de ces professeurs en hématologie, notamment.
Anesthésiste,
évidemment.
Réanimateur.
Ouais. Des portraits très forts qui se suivent. Je voudrais qu'on revienne sur ce que dit Nadiège, infirmière. Quand un patient décède, on peut demander à prendre un peu de temps pour s'en remettre, car il y a des patients et des morts que l'on n'oublie pas. Ça, voilà, je pense que c'est aussi fort et rassurant pour tous les entourages de malades. Pour une médecine humaine, c'est pour ça qu'ils se battent aussi. Et que vous battez-vous.
Oui, absolument. Pour une médecine humaine, et vous savez, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est fantastique, toutes ces avancées sont exceptionnelles, extraordinaires. Mmh. Mais j'espère de tout mon cœur, et je souhaite mais vraiment ardemment que jamais l'humain perde sa place. Parce qu'un patient ou une famille ne pourra pas se passer de cette proximité, de tout ce qui va vous aider même à vous reconstruire après.
Oui.
La blouse blanche, ce n'est pas un paravent. Ça cache quelque chose d'humain, de très fort.
Oui, et c'est parfois une seconde peau quand même dont ont besoin tous ces professionnels qu'ils enlèvent avant d'aller dans leur propre famille parce qu'il faut un sas de décompression.
Mais vous avez remarqué qu'au travers des témoignages, il y en a beaucoup qui repartent avec.
Oui.
Qui repartent.
Beaucoup,
non, ils ont laissé la blouse blanche dans le
mais
sas.
Bien sûr, ils l'ont quand même.
Vous ne pouvez pas passer d'un truc à un autre.
Bien sûr. Vous employez un terme qui les fait toujours rougir, voire sursauter. C'est le terme de héros, mais que j'ai employé moi aussi quand je recevais il y a quelques jours le professeur Gilles Vassal pour parler du cancer des enfants. Oui, nous les considérons comme des héros, eux pas.
Ben non, parce qu'ils restent dans un métier qui est tellement le don de soi. Qu'est-ce que c'est? On a un peu déplacé les mots, c'est vrai. Même moi, si je les vois aussi comme des héros, parce que quand il a sauvé votre enfant ou votre patient, votre proche...
Parce qu'il côtoie des choses terribles, donc voilà, oui. On n'arrive pas forcément à se mettre à leur place et on se dit...
Oui, mais moi je comprends quand ils disent « nous ne sommes pas des héros », comme quand on me dit « vous êtes fantastique de faire ce que vous faites ». Non, je ne suis pas fantastique. Ceux qui sont fantastiques et qui sont les héros, là pour le coup, ce sont les patients.
Oui. En tout cas, vous avez un aperçu de chair et d'humanité dans cet hôpital. En restructuration, on parle beaucoup de la crise des urgences, des besoins matériels, de cette réorganisation.
Il y a une vraie souffrance, ils ne peuvent plus travailler tel qu'ils le faisaient autrefois. Passer des heures et des heures sur l'ordinateur pour faire du travail administratif, ce n'est pas possible. Être obligé d'accepter des actes qu'ils n'ont pas envie de faire, pousser quelqu'un à la greffe alors qu'on ne va pas amener quelqu'un à la greffe si le greffeur sait qu'il n'y aura pas de chance derrière. Il faut arrêter, quoi. Donc voilà, malheureusement, c'est qu'on est dans cette société du plus, mais l'humain, il restera à sa place, et j'en suis sûre et je l'espère.
Et vous le dépeignez fort bien, Stéphanie Fugain, derrière la blouse blanche aux éditions Flammarion. Si vous m'autorisez à vous poser une petite question sur un homme, notre président, un de nos présidents qui a disparu cette semaine, Jacques Chirac, dont l'un des drames de la vie fut la maladie de sa fille Laurence. Je ne sais pas si vous l'avez croisé dans ces circonstances hospitalières.
Oui, j'ai eu l'occasion de le croiser, Monsieur Chirac et Madame Chirac, que j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'ai vu en cet homme, à ce moment-là, j'ai vu un papa aussi. Mmh. J'ai, comme tout le monde, vu notre président, mais j'ai vu un papa, j'ai vu un humain, j'ai vu un homme plein de tendresse, plein de proximité et je garde un excellent souvenir de Madame Chirac et de Monsieur Chirac.
Stéphanie Fugain, et on rappelle aussi l'association pour laquelle vous vous battez, l'association Laurette Fugain.
Oui, parce que nous avons toujours besoin de donneurs, de sang, de plaquettes et de moelle osseuse.
Merci Stéphanie.
Merci Wendy.
À bientôt.
On va continuer de parler de Jacques Chirac dans un instant, Wendy, avec Fabien Lecoeuvre.
Une chanson dans la tête, absolument. Lynn Renaud considérait Jacques Chirac comme un petit frère. Il adorait ses chansons. Quels autres artistes étaient dans la vie de l'ancien président en son rapport au showbiz, finalement? Oui. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Absolument.
Vous nous racontez dans une minute, ne bougez pas.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir. Et maintenant à 18h52, l'actualité entre histoire et musique, c'est une chanson dans la tête.
Avec votre éclairage sur les chanteurs, Fabien Lecoeuvre, qui ont jalonné la vie de l'ancien président de la République. Il avait 86 ans, une naissance en 1932, l'année où Louis Armstrong écrit ce standard du jazz. Now I'll be glad when you're dead, you're asked for you. I'll be glad when you're dead, you're asked for you. Du jazz à Lynn Renaud, en passant par d'autres artistes.
C'est plus grand regret de ne pas avoir vu Armstrong sur scène à l'Olympia.
Ah, justement. Mais comment vous qualifieriez en préambule la culture musicale de Jacques Chirac? Est-ce qu'il en avait une?
Et il avait une vraie culture musicale, puisque sa culture musicale ne se résumait pas à la simple musique militaire qu'on a pu le dire pendant des années.
Oui.
En fait, il avait eu déjà, moi j'en ai parlé avec lui, il avait une chanson dans la tête, une vraie chanson dans la tête. L'année de ses 18 ans, c'était Lynn Renaud, point étonnant de son histoire d'ailleurs, avec Ma cabane au Canada.
Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil.
C'est attendrissant, il avait 18 ans et il écoutait ça.
Il écoutait, c'est le tube de l'année 1950. Il faut savoir, pour la petite histoire, c'est que cette chanson a permis à la France de reconstruire en partie les ponts du nord de la France qui avaient été détruits avec la guerre de 40-45.
Parce qu'elle a reversé les bénéfices
Elle reversait une partie de ses bénéfices. Quand on achetait un disque, on avait un petit bon.
Incroyable.
On achetait une pierre, une brique, pour reconstruire un pont dans la région du Nord.
Alors, à quelle occasion se sont-ils rencontrés
Alors, réellement, Jacques Chirac, en fredonnant évidemment Ma cabane au Canada, il n'imaginait pas qu'un jour, il allait devenir très ami, le frère, finalement, de Lynn Renaud. Ils se sont rencontrés en 1975, puisque Lynn Renaud faisait partie du Conseil national de l'UDR. Alors, l'UDR, pour ceux qui nous écoutent, c'était l'ancêtre du RPR, qui a été fondé à partir de 1976.
Déjà très engagé en politique.
Jacques Chirac a été fasciné immédiatement par Lynn Renaud. Moi, j'ai fait un dîner à la Jonchère chez Lynn Renaud, en présence de Jacques Chirac.
Oui.
Je peux vous dire que quand on voyait Chirac parler à Lynn Renaud, il avait une forme de considération, d'admiration pour elle, par ce parcours incroyable. Je me suis même posé la question à un moment, si c'était pas Lynn Renaud qui gouvernait la France.
C'est dire. Incroyable. Il y a une autre artiste très importante, parce que Lynn Renaud pleure vraiment son frère, elle a 91 ans aujourd'hui, et on sait l'amitié vraiment réelle qui les associait. Autre artiste importante dans la carrière de Jacques Chirac, nous avons retrouvé avec vous, Fabien Lecoeuvre, des archives d'Europe 1. On est en août 1987. Voici les mots qu'adresse le maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac, à une grande artiste américaine.
De tout cœur, je voudrais remercier Madonna, parce que c'est vraiment chic, c'est vraiment sympa de sa part de faire un geste pareil. C'est très symbolique de son attachement à la lutte contre un fléau qui touche tout le monde et notamment la jeunesse. I just want to thank you very, very much. It's a great privilege for us to have you here, Madonna. Thank you from the bottom of our heart.
Madonna.
Alors ça, c'était précisément le 28 août 1987 dans la grande salle des fêtes de la mairie de Paris où Madonna était venue remettre un chèque accompagné de Lynn Renaud qui avait organisé, orchestré tout cela, toute cette soirée, un chèque de 500 000 francs à l'époque pour la lutte et la recherche, en tout cas, pour vaincre cette terrible maladie qu'on commençait à parler à ce moment-là, qui avait 2-3 ans, le sida, bien sûr.
Oui, c'était la veille d'un concert important avec cette chanson. Ne me dites pas que Jacques Chirac était au concert de Madonna.
Il était au concert de Madonna, c'était le lendemain, donc ce fameux 29 août 1987.
Oui.
Et alors là, ce concert a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'à l'issue de ce concert, je voyais Jacques Chirac chanter sur True Blue, évidemment, on vient d'écouter, mais surtout à la fin du concert, Madonna a jeté ses sous-vêtements. Elle a commencé par le haut, puis enfin par la petite culotte.
D'accord.
Et évidemment, la petite culotte jetée en direction du maire de Paris et premier ministre de l'époque, il l'a reçue sur les genoux. Moi, j'étais à 5 ou 6 chaises de lui. Il a reçu la culotte rouge sur les genoux. Il l'a prise, il l'a attrapée, il l'a fait tourner un peu en l'air. Évidemment, toute la presse s'est emparée de l'événement.
Bernadette, la
pauvre. Bernadette lui a demandé de se calmer. Finalement, c'était une situation incroyable et qui a amusé en tout cas tous les médias et le public.
C'est incroyable. Autre Américain important dans la vie de showbiz de Jacques Chirac, c'est Michael Jackson. Écoutez cette chanson.
Ça.
Quel lien y a-t-il entre les deux?
Mais c'est surtout Claude Chirac, il faut le rappeler quand même, parce que Claude Chirac donnait un peu les goûts, en tout cas, à son père, que ce soit Madonna ou Michael Jackson. Et puis, il y a eu Jean-Claude Camus qui a organisé tous ces grands concerts. Mais sans l'aide de Jacques Chirac, Jean-Claude Camus, illustre producteur, ne pouvait pas organiser ses concerts parce que c'était la première fois qu'on mettait, on faisait un concert chanté avec du public dans le Parc des Princes. Il fallait monter sur la pelouse, il fallait monter un épais tapis pour pas que les gens abîment la pelouse. Je rappelle, la pelouse du Parc des Princes était assurée très cher.
Oui, bien sûr.
Donc, Jacques Chirac intervenait à chaque fois en tant que maire de Paris et Premier ministre. Mmh. Et il était au concert, évidemment, il fredonnait True Blue,
Donc,
Billie
Jean. C'est grâce à lui que Michael Jackson a pu attirer ses fans au Parc des Princes.
C'est important de le rappeler, le rôle qu'il a eu, Jacques Chirac, en tout cas pour cette culture musicale.
Alors vous, Fabien Lecoeur, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez notamment amené beaucoup d'artistes à l'Élysée pour le Noël de l'Élysée. Et là, on se prolonge en 98.
Oui, j'avais commencé sous François Mitterrand, puis j'ai continué sous le président Chirac, évidemment, et j'accompagnais un jour les To Be Free.
Oui. Le grand écart musical.
Alors ça, c'est le grand écart, mais surtout ce qu'il faut raconter, c'est parce que...
Donc, Boys on est Band, très connu à l'époque.
Très Boys Band, en Noël 1998, c'est un tube absolu, toute la jeunesse, toute l'enfance.
Ils sont trois.
Réclame, bien sûr, Adèle, Franck et Philippe. Et alors, je me souviens, dans cette salle des fêtes de l'Élysée, un huissier m'accompagne dans le bureau du président de la République parce que je dois lui expliquer avant qui sont les To Be Free. Donc j'arrive dans le bureau du président, je suis accompagné de son chef de cabinet et Jacques Chirac me dit « Alors, Lecoeuvre, les 2B3 ». Je dis « Non, monsieur le président, ce ne sont pas les 2B3, c'est, il faut dire To Be Free ». Et je raconte l'histoire des To Be Free au président pendant 5-10 minutes.
Oui.
Et je raconte, c'est des garçons qui sont originaires de Longjumeau. Enfin, je raconte toute l'histoire. Très bien. Il avait une faculté exceptionnelle, car il descend un quart d'heure après nous rejoindre donc dans la salle où on était avec les To Be Free, avant le concert de 17h de l'Art de Noël du président de la République. Et évidemment, il récite par cœur ce que je venais de lui raconter.
Il restitue tout ce que vous lui avez dit ?
Complètement, à la virgule près. Si bien que Philippe Nicolich me dit, mais il est incroyable, il a vécu à Longjumeau. Jacques Chirac, c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Voilà, c'est imprégné de ce que
vous
avez dit.
C'est un vrai talent, attention.
Et les deux B3 sont devenus les To Be Free. Campagne présidentielle de 1987-88.
Oui.
Dans ces meetings, voilà ce qu'on entend. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends.
Ah,
c'est du Johnny.
C'est Johnny qui chantait la chanson avant que Jacques Chirac rentre sur scène dans les meetings de la campagne 88. Seulement, c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman.
Ah oui, c'est ça.
Parce que à côté de cela, le Parti Socialiste avait pris une autre chanson de Goldman.
Son hymne là. Il changeait la vie. C'était le match des Goldman. Droite-gauche.
Si on allait voir les meetings à l'époque du Parti Socialiste avec Lionel Jospin ou finalement, avec François Mitterrand, ou avec Jacques Chirac pour le RPR, on avait une chanson de Goldman dans les deux meetings. Ce qui ne faisait pas plaisir vraiment à Goldman parce que lui, il avait un engagement plutôt à gauche, faut le rappeler quand même.
Et voilà, les soutiens intéressants. Et puis, juste un petit mot de Bardot, évidemment. Ah, Brigitte Bardot, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui.
Qui a été, oui, bien sûr, Brigitte, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire et qui avait soutenu Jacques Chirac en 1995 avec tous les artistes au Cirque d'Hiver pour l'encourager à être demain président et défendre, bien sûr, la cause animale.
Merci Fabien Lecoeuvre, merci pour cette playlist de Jacques Chirac. On se retrouvera demain, vous qui partez tout à l'heure, au concert de Maître Gims.
Absolument.
Décidément, il y en a pour tous les goûts. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. On vous accueille jusqu'à 20h sur Europe 1. C'est le grand journal du soir.
Il est 19h.
Les productions végétales non récoltées ne devront pas l'être. Celles qui ont été récoltées devront être consignées.
Des mesures de précaution concernant l'agriculture à Rouen, mais pas de pollution de l'air, annonce le préfet 2 jours après l'incendie de l'usine Lubizol.
Malgré cela, la population s'inquiète. 5 plaintes seront déposées lundi par des particuliers et des entreprises, Sophie Tussaud.
Un week-end d'hommage à Jacques Chirac avant un deuil national lundi. À Paris, mais également en Corrèze, son département, les habitants de Tulle saluent sa mémoire.
Sans faire de politique, moi je l'aimais très bien. Et j'ai vu qu'on pouvait signer au Conseil Général. Déjà, je vais aller signer. Moi, Jaco, c'était Jaco, il n'y a rien à faire.
Et puis l'avenir d'XL Airways s'obscurcit. Aucun repreneur ne s'est manifesté pour sauver la compagnie aérienne.
Europe 1.
Deux jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le préfet s'est exprimé il y a un peu plus d'une heure. Ce soir.
Oui, Élise Dangean, vous êtes à Rouen pour Europe 1 et c'est un discours plutôt rassurant que le préfet a tenu à la population.
Oui, le préfet est revenu en détail sur tous les aspects de la crise depuis l'incendie de l'usine Lubrizol. Il a tenu à se montrer rassurant d'abord sur la qualité de l'air, sujet hautement préoccupant pour les habitants de Rouen et ses alentours.
Nous sommes à un état habituel de la qualité de l'air à Rouen. Donc nous avons une situation normale, une situation habituelle telle qu'elle se présente en milieu urbain ici à Rouen. À une exception qui est le site lui-même sur lequel on note une présence de benzène. Donc.
Autre sujet de préoccupation pour les riverains, mais aussi pour les agriculteurs, les suies retombées sous forme de traces ou de galettes. Le préfet a noté une présence de plomb, mais qui ne peut pas être imputée à l'incendie, car l'usine Lubrizol n'en utilisait pas. Mais les agriculteurs vont toutefois être sous le joug de mesures de précaution.
Les productions végétales non récoltées ne devront pas l'être. Celles qui ont été récoltées avant le 26 septembre et susceptibles d'avoir été exposées, qui par exemple aurait été entreposé au bord d'un champ ou autre, tous ces éléments sont consignés, devront être consignés sous la responsabilité de l'exploitant jusqu'à obtention de garanties sanitaires sur les productions et sur la base de contrôle officiel et d'une évaluation du risque sanitaire.
Quant à l'odeur qui persiste, le préfet a reconnu qu'elle était incommodante et anxiogène, mais il l'a rappelé, il ne s'agit que d'une odeur, sans danger donc pour la santé.
Merci Élise Dangean à Rouen pour Europe 1 et l'arrêté préfectoral qui vient d'être publié concerne une zone très vaste pour les agriculteurs puisqu'il s'étend de Rouen, Dieppe et va jusqu'à Beauvais dans l'Oise. D'autres résultats concernant les analyses toxicologiques seront mis en ligne sur le site de la préfecture dès ce soir.
En attendant, des galettes d'hydrocarbures flottent sur la Seine. Les agriculteurs sont inquiets évidemment pour leurs champs. Un gel des productions et des récoltes dans la région de Rouen a été annoncé jusqu'à l'obtention des garanties antisanitaire. Écoutez Jean-Hugues Fleury, producteur de lait à Préau, près de Rouen, qui dénonce cette mesure.
Moi, concrètement, je suis obligé de traire mes vaches, je suis obligé de jeter. On va tout jeter, la production, on n'a plus le choix, comment voulez-vous que je fasse? Mon stock possible chez moi est de 2 jours. 2 jours, pas plus. On ne peut pas stocker du lait plus longtemps. De toute façon, on ne pourrait pas le travailler pour faire du fromage.
Il sera plus consommable.
Il sera plus consommable. Donc, on est dans un impasse complet. Donc, qu'on m'explique comment faire. Je suis très, très inquiet. Moi, je ne peux pas comprendre. Quand on me dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On me dit qu'aujourd'hui, la suie dans Rouen, c'est minime, c'est une suie, ça va, c'est relativement satisfaisant. Et sur les cultures, on dit surtout stop, basta. Je ne vois pas comment il peut en arriver là.
Jean-Hugues Fleury, agriculteur en Seine-Maritime, répondait à Justin Morin pour Europe 1. Pas de pollution, donc, a dit le préfet, mais donc la population s'inquiète des répercussions sur l'organisme et l'environnement. L'enquête a été élargie au chef de mise en danger d'autrui. Lundi, 5 premières plaintes contre X seront déposées par des particuliers, des entreprises. Des députés de gauche réclament également l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire dès la semaine prochaine.
L'heure est à l'émotion, la suite de la disparition de Jacques Chirac, avec des Français nombreux qui rendent hommage à l'ancien président, une file d'attente devant l'Élysée pour signer les registres de condoléances qui s'est allongée au fur et à mesure de la journée.
Près de 4000 personnes ont déjà pu laisser un message. Les portes de l'Élysée resteront ouvertes au public jusqu'à demain soir. Et puis à Tulle, en Corrèze, d'où Jacques Chirac était originaire, les habitants également saluent la mémoire de l'ancien président Stéphane Place.
Un clin d'œil en forme d'hommage sur le marché de Tulle. Émilie vend de jolies pommes que cette Corrézienne récolte du côté d'Uzerche. Et aujourd'hui, sur son étal, une formule devenue célèbre pendant la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 1995.
Aujourd'hui, le petit slogan « manger des pommes » était tout à fait venu sur le marché. Monsieur Chirac était quelqu'un très important pour les agriculteurs en Corrèze et tout autour.
Quelques mètres plus loin, sur ce marché de Tulle, un autre producteur de fruits et légumes attaché au personnage, Pierre se montre plus nuancé sur le modèle agricole qu'a défendu le ministre Jacques Chirac.
Un bon souvenir en tant qu'homme, puisque ça a toujours été quelqu'un de très convivial. Pas de cette agriculture qui aujourd'hui, à mon avis, est dans une impasse. La grande aventure de l'agriculture qu'il fallait qu'il s'agrandisse, avec les petites fermes qui disparaissaient.
Ici en Corrèze, au-delà des sensibilités politiques, de nombreux habitants comme Roger aimaient la personnalité de celui qu'ils appellent encore Jaco ou Le Grand.
Bon, je ne suis pas forcément de son bord, mais ce Chirac, je l'aimais pour sa convivialité et tout ça.
Il y a la volonté de rendre un hommage.
Oui, oui. Même plus important, Parce que bon, on a fait Johnny, je vois pas pourquoi on ferait pas Chirac.
Électeurs de gauche, de droite, jeunes, retraités, tous ces Corréziens saluent l'action de ce président qui a tant fait, disent-ils, pour le département. Tulle, Stéphane Place, Europe 1.
Et la France se prépare donc à rendre hommage à l'ancien président Jean-Sébastien Soldaini. Ça commence dès demain 14h.
14h aux Invalides pour un hommage populaire, c'est-à-dire rien d'officiel, pas de prise de parole. Uniquement le cercueil de Jacques Chirac à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui l'ont aimé, précise le gendre de l'ancien président, pourront s'y rendre et signer des registres de condoléances installés juste à côté, sous le dôme. L'hommage se poursuivra lundi matin après une cérémonie dans cette même cathédrale réservée à la famille après les honneurs militaires. La dépouille de Jacques Chirac quittera les Invalides à 11h pour l'église Saint-Sulpice. Les Français pourront, là encore, rendre hommage à l'ancien président tout au long du parcours dans Paris. Puis il y aura un service solennel présidé par Emmanuel Macron, service auquel assisteront les trois anciens présidents, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing, plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, Saad Hariri pour le Liban, Sergio Mattarella pour l'Italie, la présence notable de Vladimir Poutine, ainsi que d'anciens chefs d'État et de gouvernement, ceux qui étaient en poste au moment des mandats de Jacques Chirac, comme l'Allemand Gerhard Schröder ou le Sénégalais Abdou Diouf.
Merci Jean-Sébastien Soldaini.
À suivre, l'avenir d'XL Airways avec des marques d'intérêt mais pas d'offres fermes de reprise. Les salariés s'inquiètent et en appellent à l'aide du gouvernement. C'est le sujet à suivre juste après la pause.
Il est 19h09, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Wendy Bouchard.
Après la fin hier minuit des glazures, c'est donc XL Airways qui cherche à tout prix un repreneur. Les candidats, Sophie Tussaud, avaient jusqu'à midi pour se manifester.
Et l'avenir de la compagnie aérienne est incertain. Aucune offre ferme n'a été faite, Maud Descamps.
En effet, aucune offre ferme. En revanche, un repreneur aurait montré des marques d'intérêt pour la compagnie, mais il y a beaucoup d'interrogations sur sa capacité de financement. Si la date butoir était fixée à aujourd'hui midi pour que les repreneurs déposent leur offre, sachez que XL Airways a jusqu'à mercredi pour amener une offre solide au tribunal de commerce de Bobigny. Si la compagnie arrive les mains vides, alors là, ce sera le placement en liquidation judiciaire. Si elle arrive avec une offre solide, alors le dossier sera étudié de près dans les jours qui suivront. Ensuite, c'est le tribunal de commerce de Bobigny qui validera ou non la reprise. En tout cas, du côté des salariés, on n'y croit plus. On a le sentiment qu'on va perdre notre travail, m'a confié l'un d'eux cet après-midi.
Merci Maud Descamps.
Et nous recevons en exclusivité dans 10 minutes Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État en charge des transports, qui va réagir ce soir avec nous à la détresse des salariés et à l'appel des syndicats. Le trou de la sécurité sociale va mettre plus de temps que prévu pour se résorber, selon le projet de budget 2020 qui sera dévoilé lundi par le gouvernement.
Oui, il faudra attendre 2023 pour un retour à l'équilibre et non cette année comme annoncé précédemment. Le déficit de la caisse d'assurance maladie devrait atteindre 5,4 milliards d'euros cette année et 5,1 milliards l'année prochaine. C'était aujourd'hui la Technoparade à Paris, un événement dédié cette année à Steve, le jeune homme décédé à Nantes le soir de la fête de la musique à la suite d'une opération controversée de la police. Plusieurs gilets jaunes se sont invités dans le cortège. Les organisateurs de la Technoparade ont regretté cette récupération.
Merci Sophie Tussaud. À tout à l'heure, 19h30 sur Europe 1. Voici la météo de Valérie Darmon. Et si on regardait dans le détail le temps de nos régions demain ?
Eh bien, dans le nord-ouest, pluie et vent se partagent le ciel, en même temps que quelques éclaircies dans l'après-midi, pour profiter des grandes marées d'équinoxe. Le vent souffle jusqu'à 90 km/h en bord de Manche et 70 dans l'intérieur de la Bretagne et de la Normandie. Dans l'est, jusqu'au bassin parisien, la matinée se déroule sous les nuages et l'après-midi, le ciel se couvre davantage, avec l'arrivée de pluies parfois soutenues et un vent toujours très sensible. Un peu plus au sud, Massif central, Bourgogne, vous passez la journée au sec malgré un ciel qui se voile là aussi progressivement. Dans le sud-ouest, temps sec jusqu'au soir, au sud de la Garonne, sous un ciel qui se charge là aussi de plus en plus par la façade atlantique. Sur Midi-Pyrénées, le ciel reste lumineux grâce au vent d'OTAN qui se renforce et le vent marin qui apporte aussi en Méditerranée des entrées maritimes, notamment en Provence et en Languedoc. Les températures de l'après-midi, entre 18 à Charleville et 31 à Cahors.
Merci Valérie Darmon. 19h12, c'est l'heure du journal des sports sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Avec Jean-François Pérez et du foot à la une, 8e journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Bordeaux.
Absolument, on avait quitté les Parisiens à 0-0 à la mi-temps, mais ça c'était avant le retour de Kylian Mbappé. On va voir si le Français est aligné pour la première fois depuis un mois et tout de suite décisif. Julien Froment, vous êtes à Bordeaux pour Europe 1.
Oui.
Ça a clairement changé la donne du côté du Paris Saint-Germain qui mène désormais 1-0 sur la pelouse de Bordeaux. But signé Neymar à la 70e minute de jeu sur un service de Kylian Mbappé, le Français très en jambes pour son retour sur le terrain. On le rappelle, hein, il avait été victime d'un claquage, l'international français. Et bien là, il est rentré environ à l'heure de jeu et il s'est distingué à de multiples reprises, quasiment à les 2-3 occasions franches, à chaque fois interceptées par le gardien bordelais Benoît Costil. Mais là, sur cette passe décisive, le gardien de Bordeaux ne pouvait strictement rien faire. Et Neymar donc, qui est allé conclure cette action 1-0 donc, pour des Parisiens qui dominaient largement les débats mais qui tardaient à marquer. 85 minutes de jeu, 1-0 donc, pour Paris face à Bordeaux.
Merci Julien.
À Lyon, le mot n'est pas encore prononcé, mais Jean-François, ça ressemble fortement à ce qu'on appelle une crise.
Oui, nouvelle défaite et surtout 7e match sans victoire pour l'OL, battu à domicile par Nantes, 1-0, but de Moutou Sami. Une réunion au sommet du club aura lieu ce soir en présence du président Jean-Michel Aulas. L'étau se resserre autour du duo brésilien Juninho-Silvinho. Mais ça, les Nantais n'en ont cure, ils prennent provisoirement la tête du championnat. Dans trois quarts d'heure, coup d'envoi des matchs et du multiplex d'Europe 1. Un très alléchant Nice-Lille, Angers-Amiens, Metz-Toulouse, Monaco-Brest, Stade de Reims-Dijon.
Les mondiaux d'athlétisme à Doha, bon, les deux mauvaises nouvelles côté français ce soir.
Jimmy Vico éliminé en demi-finale du 100 mètres, mais aussi et surtout, est-ce le crépuscule d'un champion, Renaud Lavillenie, sorti dès les qualifications de la perche. Il n'a plus faire mieux que 5 m60. On va essayer de se consoler ce soir. Alexandra Tavernier est en finale féminine du lancer du marteau. Johan Diniz sera à 23h heure française au départ du 50 km marche. Mais avant cela, finale du 100 mètres, Gatlin, Coleman, De Grasse, Blake en direct sur Europe 1 à 21h15.
Pour la petite finale de volleyball, le championnat d'Europe, on attend le bronze du côté français.
Dernier match difficile, hein, Wendy, pour des Français encore marqués par l'échec d'hier soir face à la Serbie. Cyril de la Morinerie, vous êtes sur place à la Corotel Arena.
Oui, Jean-François, effectivement, avec 2-7 à 0 pour l'équipe polonaise. Effectivement, c'est compliqué pour les Français, mais les Français, ils s'accrochent parce qu'à chaque fois, eh bien, le score est étriqué. 26 à 24 dans la première manche, 25 à 22 dans la deuxième pour la Pologne. Et dans la troisième manche, eh bien, il n'y a que 2 points d'écart, 6-4 pour l'équipe de Pologne avec Ngapet toujours présent qui harangue ses coéquipiers. 13 points marqués depuis le début de la partie, mais en face, il y a notamment Léon qui est un serveur véritablement hors pair et qui lui aussi marque beaucoup. C'est l'homme fort de cette équipe polonaise soutenue par un public très nombreux et qui va essayer de remporter sa deuxième médaille européenne.
On y croit encore un petit peu et la grande finale demain, la Serbie face à la Slovénie. On termine avec de la boxe peut-être. Un petit mot, grande réunion ce soir à Nantes. Tony Yoka en route vers son destin mondial croise les gants avec l'Allemand Michel Walisch. Souleymane Sissoko, autre médaillé des Jeux Olympiques de Rio et toujours invaincu chez les pros, fera face au Russe Mikhail Lanko. C'est à partir de 20h45. Juste un petit mot, bonne nouvelle, à moins d'un an des Jeux Olympiques de Tokyo, Cédric Joly est devenu champion du monde de canoë ce midi. Ça se dispute en Espagne. Le canoë-kayak, vous le savez, est une discipline traditionnellement pourvoyeuse de médailles pour
Merci.
La France aux Jeux Olympiques.
Jean-François Perras, toute l'actu des sports sur Europe 1.
À suivre. Wendy, le transport aérien dans la tourmente.
Oui, une quinzaine de syndicats appellent le gouvernement à l'aide et en exclusivité sur Europe 1, le secrétaire d'État au transport leur répond dans un instant.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1. Wendy Bouchard, l'heure est grave pour le secteur aérien d'Aigle Azur à Excel Airways.
Bonsoir Jean-Baptiste Djebari.
Bonsoir à vous.
Vous êtes secrétaire d'État au transport, vous êtes entré récemment au gouvernement pour prendre en charge notamment ces dossiers, vous vous y êtes investi personnellement. Ce soir, l'avenir est très incertain pour les salariés d'XL Airways. Le sort d'Aigle Azur a été scellé hier soir. Tout ça, c'est du gâchis, Jean-Baptiste Djebari.
C'est sûr que ça laisse un goût un peu amer et c'est toujours malheureux de voir disparaître une compagnie aérienne. Et je veux d'abord penser aux 1150 salariés français et algériens d'Aigle Azur qui ont connu une fin d'aventure un peu triste hier. Je vous l'avais dit, hein, l'État a été mobilisé pour faire émerger un projet de reprise et nous continuons le travail avec XL encore aujourd'hui pour maximiser les chances, que cette compagnie soit reprise dans les meilleurs délais.
Le délai est porté à mercredi avec aujourd'hui des marques d'intérêt mais pas d'offres fermes en l'État. Pourquoi si peu d'intérêt précisément ou d'envie de reprise de ces compagnies low cost qui étaient pourtant il y a quelques années encore des fleurons français ?
Non, c'est pas un manque d'intérêt, si vous voulez. Sur Aigle Azur, nous avions eu 14 offres. Le problème, c'est que le temps imparti était assez court, que parfois il était difficile de tracer les fonds, que parfois les garanties financières demandées étaient trop exigeantes pour les porteurs des projets, et que parfois on avait aussi affaire à des offres un peu baroques, voire frauduleuses. Donc c'était très dur d'avoir une vision très claire et de pouvoir soutenir et faire émerger un projet qualitatif et surtout sécurisé sur le plan financier. Et nous n'avons pas réussi collectivement, et moi je veux saluer aussi les différents porteurs de projets avec qui nous avons eu des rapports très quotidiens, nous n'avons pas réussi collectivement à faire émerger une offre qui soit à la fois sérieuse sur le plan industriel et financée dans le cadre juridique qui est le nôtre aujourd'hui.
Donc c'est une responsabilité collective dans laquelle vous associez aussi les autorités ?
Non, je veux dire que l'effort a été collectif pour faire émerger une solution. Vous savez, les deux cas sont très différents. Aigle Azur est une compagnie qui, en 2017, s'est diversifiée avec les conséquences qu'on connaît. Mais je crois qu'on peut dire que ça parvient quand même d'une décision stratégique qui a été prise par la gouvernance, qui n'a pas permis à l'entreprise de poursuivre son activité. XL, c'est un peu différent. C'est un petit opérateur qui subit une concurrence qui est forte et qui a des problèmes d'actionnariat, en tout cas de capitalisation, depuis plusieurs années et qui n'a pas réussi à se recapitaliser rapidement pour pouvoir investir dans les avions, pour pouvoir vendre les billets différemment. Et ça traduit effectivement une très grande concentration des compagnies aériennes. Aujourd'hui, ce sont des très gros acteurs et la difficulté pour les petits opérateurs de résister.
Les 570 salariés d'XL Airways n'y croient plus ce soir. Est-ce que vous êtes en mesure de les rassurer ?
Je les ai reçus, les salariés d'XL Airways, encore avant-hier, au tout début de cette affaire compliquée.
Mais pas aujourd'hui, alors qu'ils attendaient peut-être une offre de reprise.
Mais aujourd'hui, j'ai discuté avec les potentiels repreneurs hier soir et encore cet après-midi, en début d'après-midi, avant que cette offre soit déposée au tribunal. Donc nous poursuivons. Moi, je leur ai dit que nous ne lâcherons rien jusqu'à la dernière minute, comme nous avons fait pour Aigle Azur. Et aujourd'hui, cette offre est dans les mains du juge qui va vérifier l'origine des fonds, qui va regarder le projet industriel et qui, en toute indépendance, jugera. Mais je veux leur dire que nous sommes mobilisés jusqu'à la dernière minute pour eux.
Aigle Azur, c'est fini depuis hier soir minuit, je le disais. Jean-Baptiste Djebbari, vous qui êtes secrétaire d'État au transport, vous vous étiez engagé à aider au reclassement les 1150 salariés. Est-ce que vous pourrez tenir cette promesse ce soir ? Est-ce que vous êtes en capacité de donner ?
De toute façon, il y a effectivement des aides qui sont assez classiques sur le reclassement, les formations, mais l'aide la plus favorable, si j'ose dire, c'est le fait que les compagnies aériennes, et c'est un peu le paradoxe, mais les grands acteurs recrutent actuellement. EasyJet recrute, le groupe Air France a des besoins sur l'ensemble des personnels, les personnels navigants, les personnels de maintenance aéronautique. Et donc, nous avons bon espoir que dans un temps relativement court, la plus grande partie des personnels d'Aigle Azur puissent retrouver un emploi. Et nous travaillons les modalités, notamment avec le groupe Air France, qui, je crois, s'est dit en capacité de créer des passerelles ou de mettre en place des passerelles qui ne soient pas trop exigeantes en tout cas facilitées en termes de recrutement, tout en évidemment en préservant les exigences de sécurité, c'est bien normal.
Oui, le groupe Air France qui le dit par la voix de son patron, nous ne sommes pas convaincus par le modèle low-cost long courrier qui n'a donc pas déposé d'offre de reprise ni pour Aigle Azur, en tout cas il ne l'a pas maintenu, ni pour XL Airways. Ça vous choque finalement ?
Non, je crois que moi j'ai eu l'occasion, enfin, avec Ben Smith, le patron d'Air France KLM, je parle très très régulièrement et je crois qu'il a cette analyse économique que le modèle low-cost long-courrier, comme l'a développé Norwegian par exemple, n'est pas un modèle qui a démontré aujourd'hui sa résistance économique.
Donc c'est fini sa vision. Pour ce modèle-là en France
Je dis pas que c'est fini, je dis que c'est sa vision et je pense que le transport aérien a connu des révolutions considérables. Ça a été le low-cost au début des années 2000. Aujourd'hui, il y a plein de compagnies qui s'essayent sur le low-cost long courrier. Et l'appréciation de Ben Smith, c'est qu'aujourd'hui, ces modèles ne sont pas démontrés. Et Ben Smith a dit qu'effectivement, s'agissant d'XL, sur ce modèle-là, il n'était pas tout à fait convaincu qu'Air France ait des synergies à construire ensemble.
Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au syndicat du transport aérien qui vous appelle à l'aide, qui appelle le gouvernement à l'aide, le Premier ministre en disant qu'il y a urgence à sauver le pavillon français ? Quand on change de modèle, comment on fait ?
Eh bien, d'abord, on essaie d'être lucide sur le constat. Aujourd'hui, vous avez des petits opérateurs français qui s'en tirent et s'en tirent même très bien. C'est le cas du groupe Dubreuil, Air Caraïbes. Et je l'ai dit, mais souvent, quand une compagnie va mal, on peut toujours blâmer l'État. C'est assez plaisant, mais on s'aperçoit souvent qu'il y a des choix entrepreneuriaux qui sont parfois discutables. Donc moi, je veux qu'on soit lucide collectivement sur ce qui se passe pour le transport aérien français. Après, on sait très bien que dans notre pays, nous avons des charges sociales qui correspondent aussi à des prestations. Et quand on met tout ça sur la table, on arrive déjà à avoir un nombre de discours rationnels. Donc moi, j'ai parlé avec les syndicats depuis deux semaines maintenant. Ils m'ont fait un appel au travers d'un collectif. J'ai dit ma disponibilité pour les recevoir. Donc il faudra déterminer le format, le cadre. Mais je suis tout à fait disposé à poursuivre ces discussions avec eux, évidemment.
Oui, évidemment, dans l'urgence. Il y a urgence, donc vous les recevrez manifestement dans les jours qui viennent.
Absolument.
Merci Jean-Baptiste Djebari pour ces mois en exclusivité sur Europe 1, alors que le transport aérien, que vous connaissez bien pour avoir été pilote vous d'affaires, vit cette situation très tourmentée. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et voici comme chaque samedi un petit peu avant 19h30 sur Europe 1, l'écho de la planète avec vous Wendy Bouchard.
L'écho de la planète, c'est le journal de l'environnement, chaque samedi avec Virginie Salmen. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. À la une, Jacques Chirac et l'environnement, le rapport des experts du GIEC, version culture, et puis on parlera de Thomas Braille, le sauveur de platanes.
C'est toujours l'heure des hommages et du bilan aussi après la disparition de Jacques Chirac. L'ancien président avait prononcé cette phrase qui nous aura marqué : notre maison brûle, mais nous regardons ailleurs. C'était un président écolo aux véritables convictions, Virginie Salmen, Jacques Chirac.
Alors, on ne peut pas dire qu'il était un écolo convaincu. Pourtant, dans son bilan, il y a quelques faits marquants en faveur de l'environnement. D'abord, dans les années 70, quand il est Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, il y a une pression des militants écologistes. La cause est à la mode et Jacques Chirac, on peut dire, y cède. C'est à ce moment-là que deux grandes lois vraiment fondatrices du droit de l'environnement actuel sont promulguées. En deux mots, il y en a une, par exemple, qui fait que quand on veut créer une usine, une décharge ou bien un incinérateur, bref, une activité potentiellement polluante, on est obligé de faire une étude d'impact auparavant, ce qui paraît évident aujourd'hui. Donc ça, c'est Jacques Chirac.
D'accord.
Il était aussi l'homme de la voiture à Paris. C'est lui qui a décidé de la reprise des essais nucléaires à Mururoa en 1995. La centrale nucléaire EPR de Flamanville,
pas vraiment,
ça c'est lui.
Écolo,
donc ça,
c'est
pas le versant écolo. Oui. Et puis, à nouveau, lors de son deuxième mandat de président de la République, il est sensible à deux figures écologistes, Nathalie Kosciusko-Morizet et puis Nicolas Hulot, déjà, avec qui il fera le voyage pour le sommet de la Terre à Johannesburg en 2002. Et puis, deux ans plus tard, eh bien, ces paroles cultes, elles se transforment en un acte fort, la charte de l'environnement, c'est-à-dire que la protection de la nature est inscrite dans la Constitution française depuis cette date.
Oui, mais a-t-elle été suivie des actes ? C'est plus compliqué de le dire. Oui. On entend, cela dit, les paroles de l'ancien président autrement, à l'heure où les scientifiques du GIEC, Virginie, publient leur rapport sur les océans, sur les glaciers, qui se dégradent plus rapidement que prévu.
Oui, et dans quelques dizaines d'années, sur beaucoup de montagnes, eh bien, il n'y aura presque plus de glaciers, selon les projections des scientifiques. Donc, une montagne, ce sera plus un sommet avec un chapeau blanc comme dans un dessin d'enfant.
Oui.
Chez certains peuples, les montagnes sont pourtant considérées comme la maison d'un dieu. Certaines sont même trop sacrées pour être escaladées, dans l'Himalaya par exemple. Donc une montagne qui deviendrait grise, sèche, sans neige, eh bien ce serait un changement profond. C'est ce que nous explique Samuel Morin, l'un des auteurs principaux de ce rapport du GIEC.
On a pu mesurer par des études scientifiques en quoi la disparition déjà en cours de certains glaciers ou la réduction du manteau neigeux perturbe leur système culturel, perturbe leur système de croyance et perturbe la relation qu'ils entretiennent avec les montagnes. Certaines montagnes sont nommées avec des termes qui se rapprochent du blanc, par exemple. Et le mot montagne, dans certains pays, est quasiment associé à la notion de blanc. Et donc, une montagne qui est de plus en plus déneigée, dans laquelle les glaciers disparaissent, mais finalement, c'est presque plus une montagne.
Voilà, donc ça change la culture des générations à venir et puis aussi leurs croyances.
On prend des nouvelles ce soir de Thomas Braille.
L'homme qui vivait depuis un mois au sommet d'un arbre en face du ministère de la Transition écologique à Paris. C'était sa façon de protester contre l'abattage programmé de 16 platanes à Condon dans le Gers. On l'écoute.
On se doit de grimper les arbres pour alerter l'opinion publique. Les arbres sont à vous. C'est l'avenir de vos enfants.
Voilà son message. Donc ces platanes âgées de 120 ans ont finalement été abattues cette semaine sous protection des gendarmes. Le maire de la commune a expliqué qu'au moins l'un d'entre eux était jugé malade et dangereux. Mais Thomas Braille ne baisse pas les bras, il ne va pas s'arrêter là. Prochain combat contre la coupe de 80 platanes le long d'un axe routier près d'Albi dans le Tarn.
On va terminer Virginie Salmen avec le conseil, l'idée de votre copine Catherine.
Oui, ma copine Catherine, elle essaie de devenir le plus écolo possible dans ses gestes du quotidien, c'est déjà ça. Là, ce sont les mégots, même si elle fume elle-même parfois, attention, hein. Elle s'est souvenue de cette info qui la traumatise. Un mégot de cigarette jeté par terre pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Mmh. Alors ça peut être 500 litres d'une nappe phréatique ou bien 500 litres d'eau de mer s'il est sur la plage. Et donc quand elle voit quelqu'un jeter son mégot dans la rue ou à une terrasse par exemple, eh bien elle lui délivre pacifiquement ce message façon Gandhi avec l'espoir qu'il reste dans la tête d'un maximum de fumeurs. Voilà pour le conseil de Catherine Margne.
Et pour le journal de l'environnement, l'écho de la planète signé Virginie Salmen chaque samedi sur Europe 1. Merci, à la semaine prochaine.
Bonsoir.
Et à suivre sur Europe 1 dans un instant. J'allais dire, dans l'ombre des grands chefs, c'est le nom de la rubrique.
Bah oui, c'est bien, c'est côté cuisine avec Pierre Herbulot. On vous apprend une belle recette du Sud, les sardines à la sicilienne. Mmh. Ça fait saliver.
Oh là là. 19h31, vous écoutez Wendy Bouchard, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Attention, prenez des notes, on fait un petit tour en cuisine.
Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité de ce 28 septembre avec Sophie Tussaud.
Pas de pollution de l'air à Rouen après l'incendie de Lubrizol. La qualité de l'air est dans son état habituel, annonce du préfet. Alors qu'en raison d'une odeur persistante dans la ville, plusieurs habitants sont pris de vomissements. Des mesures de précaution concernant l'agriculture sont prises à Rouen, Dieppe et Beauvais dans l'Oise. L'enquête a été élargie aujourd'hui au chef de mise en danger de la vie d'autrui. Une longue file d'attente à l'Élysée pour signer les registres de condoléances à la suite du décès de Jacques Chirac. Demain, un hommage populaire sera rendu aux Invalides, à l'ancien président décédé jeudi à l'âge de 86 ans, avant une cérémonie lundi en présence d'une trentaine de chefs d'État, parmi lesquels Vladimir Poutine. Il va falloir encore attendre avant que le trou de la Sécu ne soit comblé. Pas de retour à l'équilibre avant 2023. C'est ce qu'annoncera le gouvernement lundi lors de la présentation du projet de budget 2020. Cette année, le déficit de la Sécurité sociale devrait atteindre 5,4 milliards d'euros. Beaucoup d'incertitudes sur l'avenir d'XL Airways. Aucune offre ferme de reprise n'a été formulée, seulement des marques d'intérêt. Le football, Paris reprend la tête du classement après sa victoire 1-0 face à Bordeaux. C'est la 8e journée de Ligue 1. Et puis la météo, de la pluie au nord demain avec l'arrivée d'une perturbation par la Bretagne et un risque de vague submersion dans le Pas-de-Calais qui est placé en vigilance orange. Au sud, le ciel sera variable. Côté température, les maximales atteindront de 17 à 23 degrés sur la moitié nord, de 23 à 28 sur le sud et jusqu'à 31 degrés sur le midi toulousain.
Merci Sophie Tussaud.
On a faim, Wendy.
Ah oui, vous êtes impatiente dans l'ombre des grands chefs. On est avec Pierre Arbulot. Ça y est, Pierre, on se glisse en cuisine avec vous. Un plat méridional ce samedi, des boulettes de sardines à la sicilienne. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir, Wendy. Je vous emmène en Sicile ce soir dans les cuisines de la nouvelle taverne de Giuseppe Messina. Bonsoir.
Bonsoir.
Pane et olio, je le dis bien.
Voilà, pane et olio, taverna.
C'est le nom de votre troisième restaurant, votre troisième cantine dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà. Vous allez nous faire découvrir que la cuisine italienne, ce n'est pas que la sacro-sainte trinité pâtes, risotto, pizza, même si on adore. Qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on va faire des boulettes de sardines, en fait, comme préparait ma grand-mère à l'époque, polpette de sardines à la siciliana. Donc on prend les sardines, deux emboles... En inox, et là, avec les mains.
Ah, c'est avec les mains?
Oui, voilà. Je les écrase. Là, on a mis les œufs, une belle cuillère à soupe de persil et de menthe, trois belles pincées de sel, une pincée de poivre et un origan. Alors là, moi, je rajoute un peu de caciocavallo. C'est un fromage typique sicilien. C'est pas fort, c'est doux.
Qu'est-ce qui s'en rapprocherait à la maison?
Un pecorino. Là, des zestes de citron. Alors, ça c'est la chapelure qu'on fait nous maison. Donc on récupère justement le pain, on le met dans le four la nuit. Donc on démarre comme ça. Un bon filet d'huile d'olive. Et c'est parfait. Et on laisse reposer un peu.
Alors, la préparation sort du frigo, elle y est restée 25 minutes, le chef là est en train de faire des petites quenelles, et hop, dans un bain d'huile.
Voilà, bien évidemment, les boulettes bien dorées. Et là,
deuxième cuisson
avec la magnifique sauce tomate. Donc, qu'on va cuire tout doucement. En fait, on les oublie. Là, on met les boulettes.
Donc, jetées comme ça, voilà, dans la sauce tomate, elles disparaissent, on les voit, hop là. Glisser dans la sauce.
La sardine va à la mer. Alors,
nos boulettes viennent tout doucement de cuire pendant une petite demi-heure dans la sauce tomate. Giuseppe Messina est en train là de nous dresser une assiette.
Bon appétit.
Donc je prends celui-là là.
Voilà.
On a le goût de la sardine. Mais il est hyper léger, il est doux.
Oui.
On sent le citron, on a cette petite sauce tomate là qui est délicieuse.
T'as envie de goûter encore plus. Puis tu finis une dizaine de boulettes là.
Ça va vite.
Avec un bon verre de vin et puis dodo.
Voilà Wendy pour les boulettes de sardines du chef Messina.
Oui, que je vais les goûter encore une fois.
Voilà, qui goûte pour être sûr. Donc il faut prendre d'excellentes sardines.
N'oubliez pas aussi qu'avec la sardine, les Siciliens
Donc un bon repas sicilien, qu'est-ce qu'on va faire? Pâtes d'entrée aux sardines et boulettes aux sardines.
Voilà. C'est léger.
Donc
tout
des belles
ça.
Sardines et puis on est transporté en Sicile. Merci beaucoup, chef.
Merci à vous.
Buonasera.
Merci.
Et cette recette, on peut la retrouver, Wendy, sur europe1.fr et puis aussi sur votre compte Twitter.
Oui, ou celui de Pierre Herbelot, hein, parce qu'il sait le faire maintenant. Dans l'ombre des grands chefs, en effet.
Une semaine en Europe 1, voici les moments forts de l'antenne ces derniers jours.
Lundi, cette info Europe 1, Adrien Beck nous apprend que le gouvernement donnera un cours accéléré sur l'immigration aux députés La République En Marche. Un brief nécessaire avant le débat à l'Assemblée.
Une sorte de formation accélérée pour des élus qui connaissent parfois très mal le sujet de l'immigration. Le parti ne sera pas en reste avec un bureau exécutif de La République En Marche sur l'immigration ce soir. Il faut éviter les rumeurs, les approximations, dit-on dans l'entourage du Premier ministre. Alors Matignon prépare aussi un document de synthèse qui sera remis à tous les députés avec des chiffres incontestables, car l'exécutif veut à tout prix éviter des polémiques dans le débat de fond voulu par Emmanuel Macron.
Mardi, Jérôme, 44 ans, prof à Paris et donneur de sperme, réagit à la fin partielle de l'anonymat prévue par la loi bioéthique.
C'est vrai que quand j'ai commencé à donner, on ne parlait pas encore de lever l'anonymat des donneurs et c'est vrai que ça change les choses de façon conséquente. Disons que ça amène une inquiétude. Quelle va être la relation? Est-ce qu'il va falloir, est-ce qu'il va y avoir des obligations? Est-ce qu'il va y avoir... Des réclamations. Pourquoi est-ce qu'un enfant voudrait établir des liens ou des reconnaissances? Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'à titre personnel, ma réflexion m'a amené à penser qu'en fait, j'étais prêt à accepter une levée d'anonymat, à rencontrer éventuellement des enfants qui seraient issus de mon don. C'est quelque chose qui est bien. C'est-à-dire que c'est bien de faire face à cette responsabilité. Je pense qu'effectivement, un enfant qui est issu d'un don peut légitimement se poser cette question et que c'est bien de lui apporter des réponses.
C'était mercredi. Emmanuel Macron accorde un entretien exclusif sur Europe 1 à Jean-Rémy Baudot depuis New York avec, sur l'immigration, une nouvelle déclinaison du « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde » de Michel Rocard.
19h42, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec maintenant l'œil de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Wendy Bouchard.
Oui, bonsoir Frédéric.
Bonsoir Wendy.
Alors tout ou presque a été dit sur Jacques Chirac depuis jeudi, jour de sa disparition, des envolées très hagiographiques j'allais dire, et puis sa vie de contraste quand même. On va parler à la fois du politique, de l'homme et ce que disaient et ce que disent encore les sondages de son lien avec les Français. C'est très étonnant d'abord si on pose les choses à plat, Frédéric Dabi.
Oui, c'est vrai que Jacques Chirac a connu une relation très compliquée avec les Français. On dit qu'il aimait Jacques Chirac les Français. Les Français ne lui ont toujours pas vraiment rendu. Il a connu d'abord des défaites électorales terribles, voire effroyables, 1981, et surtout la défaite face à François Mitterrand à l'issue de la cohabitation. On se souvient, Wendy, de la phrase de Bernadette Chirac, « Les Français n'aiment pas mon mari ouais. ». En fait, quand on regarde des enquêtes d'opinion, on se dit que les Français ont aimé parfois très fortement l'homme Chirac, mais ont souvent critiqué, parfois rejeté l'homme politique Chirac.
Ouais, c'est intéressant, on va le voir d'ailleurs, le plus sympathique de la Ve République, disent-ils. À quelle période tout s'est joué finalement, ce contraste entre les Français
vraiment,
et Chirac?
Il a connu des pics et des creux. Il a connu la chute la plus vertigineuse sous la Ve République. Hein. L'IFOP a le plus ancien baromètre de popularité avec le journal du dimanche dès son élection en 1995. Mm-hmm. Il tourne le dos à sa promesse de la fracture sociale à réduire. Il augmente la TVA, il baisse le livret A parce qu'il trouve les caisses de l'État vides. Et vraiment, même avant la crise de décembre 1995, il est extrêmement bas dans les enquêtes de popularité. Puis, la défaite électorale suite à la dissolution et la cohabitation lui permet un véritable retour en grâce parce que les Français redécouvrent l'homme Chirac, l'homme chaleureux, notamment pendant cette Coupe du Monde de 1998.
Ça, c'est vraiment propre à Jacques Chirac, vous qui connaissez les politiques et la manière dont le lien s'établit avec les Français. Dire que les Français aiment l'homme et moins le politique, c'est quand même très, très étonnant, très détonnant. Et ça nous permet de voir aussi son bilan contrasté. Un président qui a plus géré que réformé, un bilan économique, écologique, social, qui est aussi loin d'être brillant. Finalement, tout ça s'est laissé un peu de côté aujourd'hui.
Pas vraiment. Quand on interroge les Français, c'était une enquête IFOP Paris Match de 2015 sur ce qui a vraiment marqué du quinquennat de Jacques Chirac, oui, et de tous ses mandats, il cite des choses, notamment la non-intervention en Irak en 2003, qui est un acte lourd, qui lui a permis, après sa victoire de 2002, miracle, on se souvient des conditions face à Jean-Marie Le Pen au second tour, d'être protégé des critiques des Français. On lui ségré d'avoir été un rempart face au Front National, on se souvient de la loi sur le handicap, de la réforme mettant fin aux services militaires, de ce qu'il a fait en matière de sécurité routière, la baisse drastique à partir de 2002 du nombre de morts. C'est la seule peut-être politique publique qui continue à marcher en France aujourd'hui. Mais c'est vrai, vous avez raison, Wendy, sur des moments forts, les Français, qui aimaient toujours l'homme, ont rejeté le politique, avec une ou deux années horribilis en 2005 et 2006, les manifestations du contrat première embauche qui ont valu à Dominique de Villepin de ne plus être imprésidentiable, le référendum du 29 mai sur le traité européen et la crise des banlieues en 2005, juste après l'AVC qu'a connu Jacques Chirac. Mais là, on retrouve le côté phénix. Il quitte l'Élysée en 2007 avec des Français qui sont relativement fâchés face à un président, comme vous le dites, qui a peut-être peu réformé, qui a peu agi, mais quelques mois après, dans les enquêtes de popularité, il est testé jusqu'en 2009 dans le baromètre IFOP pour Paris Match. Mmh. Il a 75% de bonnes opinions. Les Français avaient mis de côté le politique avec un bilan peut-être contrasté, mais mettaient en exergue l'homme Chirac, si proche d'eux, qui aimait les gens, avec sa proximité qui n'était pas feinte, une proximité authentique.
Oui, et ça, ce n'est pas lié à l'esprit français. C'est très propre à Jacques Chirac. On peut être à la fois un président assez impopulaire à la fin de son mandat et rester dans le cœur des Français. Ce n'est pas le cas de ses successeurs, de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande aujourd'hui dans les enquêtes, Frédéric Dabi.
Absolument pas. Mmh. François Hollande, il n'y a pas de bienveillance, pas de relecture à posteriori de son mandat, faite de nostalgie, de c'était pas si mal. Mmh. Nicolas Sarkozy, c'est extrêmement compliqué. Les Français apprécient qu'il reste dans le jeu politique, mais garde toujours un regard sévère sur son bilan et également sur l'homme. Alors que là, depuis maintenant jeudi midi, émerge une sorte de nostalgie des années Chirac. On voit une sorte de vertige qui s'empare de beaucoup de Français.
Comment vous l'expliquez, Frédéric Dabi ? Il y en a qui disent que c'est parce qu'il incarnait la France d'hier, une France debout, finalement, dans l'esprit gaullien.
Je pense que, déjà, il y a une page qui se tourne. Ce que la France avait connu après la mort du général de Gaulle, Georges Pompidou qui dit « Aujourd'hui, la France est veuve oui. ». Après la mort de François Mitterrand, c'est peut-être le dernier géant de la politique française qui s'en va. Et puis, comme vous le disiez, il y a une sorte de nostalgie, d'âge d'or. Dans une enquête il y a quelques années, les Français disent à 83% « Les années Chirac, c'est des bons souvenirs mmh. ». C'est peut-être un sentiment de liberté, le droit de tout dire. On se souvient de propos de Jacques Chirac un peu graveleux sur les femmes.
Libertaire.
Jacques Chirac, le clope au bec. Oui. Et puis aussi, le Jacques Chirac, l'homme politique qui s'est caché d'une certaine médiatisation, pas de réseaux sociaux à son encontre. Il a pu préserver ses jardins secrets. On sait maintenant la poésie, le Japon, les arts premiers avec le musée maintenant qui porte son nom. Et puis, c'est l'âge d'or d'une France auxquels beaucoup de Français qui sont parfois brusqués par des réformes, par des remèdes de cheval qu'on veut leur imposer, qui sentent une perte de repères, ne se retrouvent plus dans la France d'aujourd'hui, eh ben, les années Chirac, c'est une sorte de totem qui suscite cette nostalgie et ce sentiment d'âge d'or, parce que Jacques Chirac, les années Chirac, Wendy, c'est les années 60 avec Georges Pompidou, c'est les années 70 avec la création du RPR, c'est les années 80 avec la cohabitation avec François Mitterrand,
c'est 50
qui l'a fini par beaucoup
politique.
Aimer. Et puis voilà, c'est vraiment une page de l'histoire qui se tourne.
Merci Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, pour votre œil du soir.
Merci Wendy.
Dans un instant, Wendy Bouchard, Jacques Chirac, un destin français et une vie.
Oui, une vie Paris Match. Il avait 86 ans, le journal 70. Inutile de dire que le journal a épousé le parcours de l'homme politique et de l'homme tout court. Et on en parle avec Olivier Royan.
19h50, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Une vie, une histoire, en lieu et place de l'entretien de Philippe Legrand. Ce soir, je donne la parole au patron de la rédaction de Paris Match, Olivier Royan, car Jacques Chirac, c'était un destin français et vous l'avez tant suivi dans vos pages. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Vous qui êtes directeur de la rédaction de Match, combien de couvertures avez-vous fait avec le président ? On parle d'une trentaine, c'est exact ?
Oui, c'est une trentaine environ, parce que finalement, Chirac, il apparaît en couverture de match quand il est Premier ministre, jeune Premier ministre en 1974. Et alors, on l'a eu dès les années 60 dans Match, mais c'est en 74 qu'il commence à faire la couverture. Mm-hmm. Et puis, très récemment, on a encore fait une couverture de lui il y a environ un an et demi, quand on parlait plutôt de l'automne du Patriarche. En fait, ce qui s'est passé entre Paris Match et Jacques Chirac, c'est un peu, vous savez, comme avec les autres présidents de la Ve République, nous nous sommes tant aimés et si souvent fâchés. C'est-à-dire que des journalistes veulent toujours avoir des images, on veut toujours à Match avoir des images. Et c'est vrai que Chirac, ce qui est assez intéressant dans sa vie, c'est que autant il a développé une certaine suspicion vis-à-vis des journalistes politiques, autant il a développé une véritable complicité avec les photographes. C'est quelqu'un qui est toujours entouré par les photographes. Et je me souviens de notre ami Benoît Gisembert à Paris Match, qui me racontait des voyages avec Jacques Chirac. D'une certaine manière, Chirac adorait les photographes. Et c'est pour ça que dans nos archives, on a 13 millions de photos à Match. On a plongé dans nos archives, on a trouvé un nombre extraordinaire de photos justement de cette complicité entre Chirac et les photographes. Il sourit aux photographes, il ouvre sa vie personnelle. C'est quand même extraordinaire. On récupère ce jeune député en 1967. On le voit bricoler les mains dans le cambouis de sa Peugeot 403. Il fait 2000 km chaque week-end pour descendre en Corrèze, puisque Pompidou a demandé à ce jeune loup de conquérir la Corrèze. Et donc, il y a toute la vie de Chirac est finalement documentée par ces photographes. La vraie question, c'est est-ce qu'il fait de la com politique ou est-ce il fait les deux.
On va prendre un exemple, Olivier Royan. On est en 2006, il est tout bronzé en chemise à Brégançon. C'est la première fois que le président reçoit un photographe chez lui dans la résidence d'été présidentielle. C'était en souvenir de 2001, lorsque les photos en tenue très décontractée avaient été volées à Brégançon.
Moi, je ne sais pas, c'est qu'on lui a demandé toujours Brégançon. Brégançon, c'était un mystère pour nous. Oui. Et justement, c'est Benoît Gisembert, le photographe de Match, qui a passé beaucoup de temps avec Chirac, en particulier pendant la traversée du désert. Juste avant l'élection de 95, c'est quelqu'un qui est presque un paria de la politique. Les gens ont misé sur Balladur. Eh bien, Match a continué à l'accompagner. Je me souviens de Gisembert partant avec lui en Extrême-Orient, faisant des sujets à la fois au Cambodge, en Thaïlande, etc. Et donc, il a accepté Benoît Gisembert à Brégançon parce qu'il y avait aussi ce lien qui est toujours important. Il ne faut jamais l'oublier entre le photographe et la personne photographiée, entre l'homme politique et le photographe. Benoît Gisembert arrivait finalement à se faire un peu oublier dans le paysage. Mmh. Il faisait des photos d'ambiance sans avoir des flashs, sans avoir des éclairages particuliers comme pourrait le faire aujourd'hui pour un people ou une personnalité.
Il y a une photo intéressante, Olivier Royan. Le 3 juin 1995, vous êtes avec Match dans son bureau de l'Élysée avec sa fille Claude, qui encadre avec Bettina Reims, photographe de ce portrait officiel, Jacques Chirac. Ça va donner lieu au portrait qu'on trouvera dans toutes les mairies. On est aussi au cœur de la machine élyséenne.
Oui, et là, il y a encore, Wendy, il y a encore la personnalité de Bettina Reims. Mm-hmm. Bettina Reims est donc, on dirait aujourd'hui, embedded dans toutes ces heures qui précèdent, ce suspense, ces heures qui précèdent l'élection présidentielle. Jacques Chirac est à l'hôtel de ville, entouré de Claude. Il y a tout son staff autour de lui, tous les jeunes loups, toute sa jeune garde. Et Bettina Reims est capable, justement, de capter tous ces moments. Là encore, elle se fait oublier dans le paysage. Et ça va donner dans le journal, au moment de l'élection de Chirac, une grande séquence noir et blanc où on a les coulisses que l'on cherche, nous, ces moments vrais, les coulisses de l'élection de Jacques Chirac avant qu'on le voie sortir de l'hôtel de ville et de lever la main à travers la portière. Alors c'est vrai qu'il y a eu toute une histoire autour de la photo officielle parce que il a même fallu trouver une expression pour la couverture de Match parce que Chirac nous l'a donnée en premier. Et ça ne se fait pas normalement. C'est pas d'usage. Un président de la République doit relâcher la photo à travers l'agence France Presse et nous la donner. Alors, on a mis, je me souviens, en couverture, on a marqué la photo officielle en priorité. Pour ne pas pouvoir marquer en exclusivité, c'est une drôle d'expression en couverture d'un journal, mais en priorité, c'était l'image de Bettina Reims qui vraiment est arrivée sur le mur de toutes les mairies.
Olivier.
Et là encore, le lien entre un photographe et Chirac.
Olivier Royan, Paris Match raconte les destins français, les histoires françaises. On ne peut pas parler de Chirac sans parler de son clan. On vient de le faire à l'instant avec Claude Chirac. Bernadette Chirac, évidemment, son autre fille Laurence, son petit-fils Martin, que vous avez suivi aussi avec Paris Match. Il y a eu des unes de Paris Match consacrées au clan Chirac, à la famille Chirac.
Énormément, hein, parce que Chirac est entouré de ce clan. Bon, il a évidemment, c'est un clan qui est formé de 4 personnes au début. Hein. C'est Bernadette, cette femme de sa vie, cette femme qui va accompagner tout son parcours. Il y a Claude, sur laquelle Claude va devenir absolument indispensable. Hein. C'est elle qui va gérer l'agenda, c'est elle qui va gérer l'image du président quand il sera à l'Élysée. Et puis il y a Laurence, cette blessure secrète, cette fille adorée qui a des problèmes de santé, qui habite dans l'ombre, que l'on ne voit pas très souvent. Et donc Chirac que c'est à la fois en photo, quand on le voit par exemple par deux fois, il fait de Matignon une sorte de forteresse. On le voit dans les jardins de Matignon avec les deux chiens, avec Bernadette et avec Claude. Et puis à côté, il y a cette personne qu'on ne voit jamais, qui est la douleur de la famille Chirac, qui est Laurence. Et puis apparaît un peu plus tard un cinquième personnage qui est Martin, le fils de Claude. Et là, c'est vrai qu'on va voir quelque chose qu'on n'a pas vu à l'Élysée, c'est d'une certaine manière le président grand-père. Et là encore, les photographes, il s'agit de Gisembert pour Match, vont montrer ce président qui a les gestes très affectueux vis-à-vis de Martin. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue à un moment donné. Il y a une photo très émouvante où on voit Chirac s'éloigner vers la grille du coq en tenant la main de Martin. Et un jour, quand on a eu ces photos, je me suis dit, j'avais envie de passer ces images. Et on a réfléchi, on s'est dit non, ce sera plutôt pour le départ de Chirac de l'Élysée. C'est vrai qu'on a fait une couverture qui était le départ de Chirac de l'Élysée. C'était Chirac tenant la main de Martin. Il est certain que l'arrivée de ce petit-fils dans le paysage familial a été très très important pour lui.
Toutes ces facettes de l'homme politique, de l'homme privé à retrouver dans le numéro spécial de Paris Match qui vient de sortir. 84 pages que vous dédiez donc à ce destin français. Merci Olivier Royan.
Merci Wendy.
Directeur de la rédaction de Paris Match, et à bientôt. Eh bien, il est presque l'heure de vous retrouver, cher Lionel Rousseau. Bonsoir.
Absolument. Bonsoir, Wendy.
Bon, que d'actualité avec le foot pour commencer. Paris qui va pas mal ce soir.
Absolument. Paris Saint-Germain limité, mais qui, grâce à Mbappé et Neymar qui sont entrés en jeu, sont imposés à Bordeaux 1-0. On va parler dans nos débats, bien sûr. On parlera de Lyon qui est en crise. Lyon battu encore une fois par l'équipe de Nantes sur le score de 1-0. Et puis en direct, 5 matchs à suivre, avec notamment une rencontre qui a opposé Monaco à Brest. On va suivre les Monégasques de très près, car c'est une équipe qui coûte cher, qui a de la qualité, mais qui est en difficulté.
Ouais, et bon, les voleurs français n'auront pas leur médaille de bronze à l'Euro, hein, battue par la Pologne, vous en parlerez aussi.
Absolument.
Cher Lionel. À tout de suite, à demain, chers amis, à partir de 18h. Kevin Ousti à la réalisation, Naïma Benchemann à la programmation, Fabien Lecoeuvre, 18h50. À demain, Fabien.
Absolument.
Et à demain, Marlène.
À demain, Wendy.
Merci de votre fidélité.